BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, présenté par Stéphanie Collet.
6h58 sur BFM Business, soyez les bienvenus, c'est la matinale de l'économie, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. À la une ce matin, Alstom publie ses résultats annuels alors que le groupe traverse une crise de confiance. Les investisseurs s'inquiètent du très haut niveau d'endettement à tel point qu'ils se dirigent vers une augmentation de capital. Tous les détails dès le début du journal. La hausse des salaires ralentit au premier trimestre mais reste au-dessus de l'inflation, c'est ce qui ressort des derniers chiffres du ministère du Travail. Et cette fois, toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées, y compris les cadres qui, jusqu'à présent, perdaient du pouvoir d'achat. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, on en parle avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose dans le débat à 7h10 et avec Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, à 7h45. Benoît Serre qui nous expliquera aussi comment les entreprises s'organisent en ce mois de mai, particulièrement propice au week-end prolongé avec seulement 18 jours ouvrés sur 31. Ça va coûter entre 4 et 6 milliards d'euros à l'économie selon l'INSEE. C'est aussi le thème de l'édito d'Emmanuel Soufi. C'est à 7h50. Et puis à 8h15, on va parler immobilier. Le marché peine à retrouver un nouvel élan. Les prix sont encore très élevés. Le volume des crédits baisse. Le marché de la location est saturé. Alors, y a-t-il des raisons d'espérer ? On verra ça avec Guillaume Martineau, le président d'Orpi. Mais d'abord, c'est le journal avec Nathan Cocampo. Et Nathan, on attend ce matin les résultats d'Alstom.
Oui, c'est peu dire qu'Alstom est attendu au tournant. Le deuxième constructeur mondial de trains est victime d'une véritable crise de confiance. Les investisseurs s'inquiètent de son très haut niveau d'endettement, à tel point qu'il se dirige vers une augmentation de capital, Raphaël Couder.
Oui, ça ne fait plus guère de doute. Alstom va détailler tout à l'heure son plan de désendettement. Et dans ce cadre, il devrait effectivement annoncer une opération de recapitalisation. C'était l'option de dernier recours. Court, mais c'est devenu absolument nécessaire face à les situations critiques de la trésorerie du groupe Alstom, qui s'attend en effet pour cet exercice un trou dans ses comptes entre 500 et 750 millions d'euros. Cette mauvaise passe, elle commence en octobre dernier lorsque le constructeur dévoile qu'il accuse un flux de trésorerie négatif d'un peu plus d'un milliard d'euros sur son premier semestre. C'est paradoxal dans un contexte où la demande pour le ferroviaire progresse un peu partout dans le monde. Et Alstom affiche d'ailleurs un carnet de commandes très solide, plus de 90 milliards d'euros. Ce dérapage, il est en fait lié à plusieurs facteurs. D'abord, les livraisons de certains trains, notamment le RERB en Ile-de-France, affichent du retard, ce qui a décalé les rentrées d'argent. Et le groupe est par ailleurs pénalisé par certains contrats dits à problème, contrats hérités du rachat du Canadien Bombardier. Toutes ces difficultés ont fait plonger le cours de l'action de 40% depuis l'été dernier, ce qui a même fait sortir Alstom du CAC 40.
Et pourtant, Raphaël, pourtant le groupe s'était démené depuis 6 mois pour trouver des solutions.
Oui, Alstom a mis les bouchées doubles ces derniers mois, d'abord à travers des cessions d'actifs. Le constructeur a par exemple vendu sa filiale dédiée à la signalisation en Amérique du Nord pour 630 millions d'euros. Alstom est également en train de se séparer de 1500 salariés dans le monde. Mais voilà, tous ces efforts ne suffisent pas pour éponger la dette. On attend donc ces annonces d'Alstom tout à l'heure, des annonces qui vont par ailleurs préfigurer certains grands changements qui se profilent au sein de la gouvernance du groupe, puisque dans un peu plus d'un mois, le 20 juin prochain, le PDG Henri Poupart-Lafarge cédera son poste de président à Philippe Petit-Collin, l'ex-DG de Safran.
Merci Raphaël. Et autre patron qui va céder son poste, c'est Jean-Pierre Farandou qui ne sera pas reconduit à la tête de la SNCF.
Oui, une décision annoncée hier par le gouvernement. Il restera son poste jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Hasard du calendrier, il était auditionné le même jour par les sénateurs. L'occasion pour lui de défendre son bilan. Jean-Baptiste Huette.
Un héros au Sénat. Durant toute son audition, le bilan de Jean-Pierre Farandou a été salué par les sénateurs. Des sénateurs outré par la manière dont le PDG de la SNCF a été éconduit. Brutalité gouvernementale, camouflet. Certains sénateurs en ont profité pour étriller Bruno Le Maire. Lui, il est toujours là, s'est agacé l'un d'eux. Jean-Pierre Farandou, ces derniers jours, a été critiqué pour avoir signé cet accord sur les fins de carrière jugé trop généreux. Et pourtant, ce n'est pas lui qui l'a initié, Jean-Pierre Farandou.
C'est Matignon qui conduisait la réforme des retraites et donc tout à fait logiquement qui avait les contacts avec les partenaires sociaux et qui a souhaité effectivement ouvrir une perspective de sortie de crise en disant les entreprises, les branches et les entreprises seraient bienvenues à ouvrir ce genre de négociations, ce qu'on a fait.
À presque 67 ans, le PDG de la SNCF était également touché par la limite d'âge fixée à 68 ans. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'est pas reconduit. Jean-Pierre Farandou a défendu son bilan. Crise Covid traversée, 3 exercices successifs dans le vert, dialogue social pacifié. Le PDG de la SNCF n'a pas démérité. Qui maintenant pour le remplacer ? Le nom de Jean Castex circule, tout comme celui de Christophe Fanichet ou encore Alain Krakowicz, deux barons du groupe ferroviaire.
Et Bruno Le Maire réagissait hier soir à cette décision devant les députés. Il insistait sur la limite d'âge pour justifier le départ de Jean-Pierre Farandou.
Dans l'affaire qui oppose Renault à Rachida Dati, la Cour d'appel de Paris rendra son verdict le 2 juillet concernant la ministre de la Culture. Rachida Dati est mise en examen depuis juillet 2021 pour corruption et trafic d'influence. Elle demande à nouveau à mettre fin aux poursuites et invoque la prescription dans cette affaire.
La première tournée européenne de Xi Jinping se poursuit, Nathan.
Oui, après la France, c'est donc la Serbie aujourd'hui, puis la Hongrie à partir de demain. Deux pays dans lesquels la Chine a massivement investi ces dernières années. Astrée Olivier.
Un total de plus de 15 milliards d'euros d'investissement pour les deux pays. En Serbie d'abord, Pékin participe à 60 projets d'infrastructure et fournit un tiers des investissements étrangers du pays. Des entreprises chinoises ont aussi racheté des industries lourdes serbes dans le secteur de l'énergie et de la métallurgie. En Hongrie, le constructeur automobile BYD, basé à Shenzhen, est en train de construire sa première usine européenne. Deux autres entreprises chinoises de batteries pour voitures électriques sont aussi en train de s'installer. Parmi les projets phares de ce partenariat entre Chine, Serbie et Hongrie, il y a la ligne ferroviaire entre Budapest et Belgrade. Négociée dans le cadre des accords de la route de la soie, le coût du projet est estimé à 2 milliards d'euros et est financé à 85% par un prêt chinois.
En Allemagne, 30 des plus grands groupes du pays comme Siemens, BMW, BASF signent une tribune contre l'extrême droite. Debout pour vos valeurs, c'est le titre de ce texte destiné à alerter leurs 1 700 000 salariés du risque économique qui pèse sur l'Allemagne si l'extrême droite gagne du terrain aux élections européennes le mois prochain. Une alliance inédite dans le pays, l'AFD, le parti d'extrême droite, ne cesse de grimper dans les sondages ces derniers mois et pourrait récolter environ 15% des voix selon une récente estimation. Amazon annonçait hier un investissement de 8,4 milliards d'euros dans le cloud et l'intelligence artificielle à Singapour, un investissement record. L'Asie du Sud-Est ne cesse d'aiguiser l'appétit des géants de la tech américaine. Notre correspondante en Asie, Marion Zipfel.
La petite cité-État a décroché le gros lot avec AWS qui va y doubler ses investissements et créer ainsi près de 50 000 emplois sur 4 ans. Un investissement qui s'inscrit dans la vision de Singapour de devenir le hub de l'intelligence artificielle et qui va y consacrer 700 millions d'euros sur 5 ans. Mais les investissements ne se limitent pas qu'à Singapour. L'annonce d'Amazon suit celle de Nvidia, le pionnier américain de l'intelligence artificielle, qui mise sur l'Indonésie avec la construction d'un centre d'IA en 2024. Mais c'est aussi Microsoft qui annonce des investissements records en Indonésie et en Malaisie dans le cloud et l'IA. Avec une économie numérique en plein essor, l'Asie du Sud-Est et ses quelques 700 millions d'habitants est aujourd'hui le moteur de la croissance de l'infrastructure cloud mondiale. C'est aussi là que se joue la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Si aujourd'hui les Américains dominent le marché du cloud en Asie du Sud-Est, les entreprises chinoises comme Alibaba, Tencent ou Huawei occupent également le terrain. Sur l'intelligence artificielle, la course contre la montre est lancée et les Américains investissent tous azimuts pour garder la main.
Après l'échec de l'envoi de Starliner dans l'espace hier, Boeing, qui enchaîne les déboires, annonce cette fois un nouveau décollage au plus tôt le 17 mai.
Oui, 10 jours pour effectuer les réparations nécessaires, explique l'agence spatiale américaine. Une anomalie avait été détectée sur une valve juste avant le décollage avec Starliner. Boeing veut envoyer pour la première fois des astronautes de la NASA vers la station spatiale internationale. De nouveaux iPads et nouvelles puces plus puissantes, voilà ce qu'il fallait retenir des annonces d'Apple hier soir. On retrouve justement notre journaliste Melinda Davansoulas qui a assisté à cette keynote.
Et oui, nous sommes ici à Londres. C'est là qu'a eu lieu la première keynote Apple de l'année. Elle était dédiée aux iPads, notamment à l'iPad Pro, la tablette tactile de la marque qui voit tout en plus grand, en plus puissant, mais aussi en plus fin avec un nouveau design. Mais ce qui intéressait surtout les observateurs et les journalistes présents, c'est la nouvelle puce M4 qui a été officialisée. C'est la puce dont on attend des miracles, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Et bien pour ça, et bien il faudra attendre le mois de juin et la conférence des développeurs pour en apprendre un petit peu plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est aujourd'hui la plus puissante d'Apple. Elle est dans une tablette et pas encore dans un ordinateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, Apple nous a expliqué que ça existe depuis très longtemps en fait dans les produits, notamment dans les iPhones. On peut faire beaucoup de choses avec. Mais si vous attendez de l'IA générative comme chez la concurrence, eh bien il faudra encore un petit peu patienter. Là, on voulait surtout montrer que l'iPad Pro est la tablette la plus puissante du marché. Il est même beaucoup plus puissant que les ordinateurs les plus puissants d'Apple. Pour le moment, c'est ça la différence. Le marché des tablettes est un marché très intéressant, peut-être un peu en perte de vitesse, et c'était l'occasion de frapper un très grand coup.
Donald Trump échappe pour le moment à l'un de ses procès.
Oui, dans l'affaire où il est accusé d'avoir fait un usage négligent de documents classés confidentiels. Un tribunal fédéral de Floride reporte finalement à une date ultérieure le jugement de l'ancien président américain. Le candidat pourrait donc échapper à ce jugement avant la présidentielle de novembre. Donald Trump est actuellement en procès à New York pour des paiements suspects effectués avant l'élection présidentielle de 2016.
Merci Nathan. 7h09 sur BFM Business. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Et on retrouve Sabrina Sedghi en plateau. Bonjour Sabrina. Séance calme en vue, jour férié oblige. Il faudra donc un peu patienter pour atteindre les 8100 points.
Oui Stéphanie, bonjour à tous. Ce sera encore un tout petit peu plus compliqué que prévu pour le CAC de rallier le seuil symbolique des 8100 points dès l'ouverture ce matin, après avoir sécurisé ce seuil hier des 8000 points grâce à une hausse de 1% avec une nette détente sur le marché obligataire. Sur le 10 ans américain, on était revenu sur des plus bas d'un mois après le rapport américain sur l'emploi, un rapport qui vient étayer d'ailleurs le scénario d'une baisse de taux de la Fed. Mais là, on tend vraiment vers une séance un peu plus indécise, un peu plus molle, à l'image de la clôture à Wall Street. Les indices américains ont en effet terminé en ordre dispersé hier. Petite hausse de 0,1% pour le Dow Jones. Le repli de Disney à la suite de résultats décevants a clairement pesé. L'indice est resté toutefois dans le vert à la clôture, et ce pour la cinquième séance d'affilée. D'ailleurs, c'est sa plus longue série de gains depuis décembre dernier. Le S&P 500 réalise la passe de 4 quand le Nasdaq marque une légère pause après sa belle séquence haussière, et idem en Asie avec un climat qui est un peu aussi mitigé. Sans surprise, les débats boursiers seront un peu plus calmes ces prochains jours en l'absence de nombreux opérateurs qui seront absents pour le long pont du 8 mai. Mais les opérateurs ont tout de même quelques résultats à se mettre sous la dent. Les résultats annuels d'Alstom prévus à 7h30, plus que les comptes. Alstom va détailler tout à l'heure son plan de désendettement avec très probablement une opération d'augmentation de capital à la clé.
Et on suivra ça évidemment dans le journal de 7h30. Merci beaucoup Sabrina. 7h11 sur BFM Business. Tout de suite, place au débat.
Good morning business. Le débat.
Le débat avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour messieurs, on va parler salaire ce matin, puisque les dernières données du ministère du Travail révèlent que le salaire mensuel de base, c'est-à-dire hors prime, a progressé de 3,3% sur un an au premier trimestre, contre 3,9% le trimestre précédent. Alors ça ralentit, mais l'inflation étant de 2,1% sur la période, les ménages devraient enfin regagner du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Nicolas Dose?
Avant de répondre à la question, je vais laisser Jean-Marc commencer, parce qu'on ne va pas être d'accord. Quand même, juste les éléments de contexte de ce qui nous est indiqué par la DARES, parce que c'est un moment de bascule. On a une vague d'inflation qui débute en 2021. On va avoir 8 trimestres d'affilée pendant lesquels le salaire réel augmente moins vite. Donc le salaire réel est dans le rouge, si vous voulez. Et là, ça y est, la bascule s'est faite au début de cette année. Et maintenant, on a un salaire réel qui progresse. Donc la réalité, c'est que ça veut dire que si on tient... Le salaire réel, c'est quand on tient compte de l'inflation. En tenant compte de l'inflation, le pouvoir d'achat progresse. Souvent, le ressenti populaire, c'est l'inverse. On a toujours une vision de l'inflation très très supérieure à ce qu'elle est dans les chiffres de l'INSEE. Notre dernier baromètre Odoxa disait, l'opinion, où est-ce que vous mettez l'inflation ? 13%. Quand en avril, on est à 2,2 Et puis, c'est maintenant valable pour absolument toutes les professions. C'est valable pour les ouvriers, où la progression d'ailleurs du salaire est la plus forte. C'est valable pour les employés. C'est valable pour les professions intermédiaires et c'est valable pour les cadres. Donc, le deuxième élément purement factuel, avant de laisser Jean-Marc répondre, sur bonne ou mauvaise nouvelle, moi j'ai un avis, c'est que, ça y est, l'inflation est absorbée et que... mais que la hausse des salaires, effectivement, ralentit. Ça, vous l'avez dit, inflation absorbée avec une hausse des salaires réelle positive, mais une hausse des salaires qui ralentit en 2024.
Jean-Marc, bonne ou mauvaise nouvelle, cette hausse des salaires ?
Je pense que je vais faire une réponse un peu à la langue d'Ésope. C'est soit la meilleure nouvelle qui soit, soit la plus mauvaise qui soit sur leur...
Oh, je suis déçu, Jean-Marc.
Sur la façon de regarder les choses.
Je suis déçu.
Alors, mais j'ai plutôt tendance à considérer que c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
Ah.
Et donc, pourquoi je dis ça
content,
parce que, fondamentalement, l'évolution des salaires doit être liée à l'évolution de la productivité. Quand vous regardez, l'INSEE a sorti en tout début d'année une étude assez longue sur l'évolution des salaires depuis 1996. Et il montre bien que l'évolution moyenne du pouvoir d'achat était de 0,5% par an, avec chaque fois qu'il y a un à-coup par rapport à la productivité, ça se traduit par un gonflement au bout d'un moment du chômage. Et donc, le véritable enjeu, c'est est-ce que la productivité est au rendez-vous ? Donc, c'est une bonne nouvelle si, derrière ce chiffre, il y a le fait que, malgré les angoisses, malgré les questions que l'on s'est posées sur l'évolution de la productivité, en fait, ce signe montre que la productivité est en train de repartir à la hausse. C'est une très mauvaise nouvelle, ce que je crains, si la productivité n'est pas au rendez-vous. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va se payer. D'ailleurs, je le rappelle régulièrement ici, tout le monde nous dit, le grand danger, c'est la boucle prix-salaire.
Mmh. Or, la fameuse spirale.
La spirale prix-salaire. Si les salaires se mettent à augmenter plus vite que l'inflation, ça veut dire qu'on est en train d'enclencher cette boucle prix-salaire. Et donc...
Il n'y a pas d'inflation, Jean-Paul.
Ah non, mais il n'y a pas d'inflation. Je pense qu'il n'y a pas d'inflation, ça c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a pu, justement, par rapport à la boucle prix-salaire, augmenter ? C'est que, indépendamment de l'évolution de la productivité, la hausse des prix, qui n'était pas une inflation, était liée à des mécanismes d'importation. Le prix des importations avait augmenté, et donc le ralentissement de cette hausse des prix des importations a donné du mou aux entreprises, c'est-à-dire les entreprises n'ont pas ont gagné de l'argent sur les importations. Ceux qui ont payé cette hausse des salaires, ce sont nos partenaires commerciaux. La question qui se pose, c'est combien de temps nos partenaires commerciaux vont être au rendez-vous. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps, que maintenant cette évolution du prix des importations est derrière nous. Et donc, s'il n'y a pas de productivité, ce que je crains, c'est une très mauvaise nouvelle.
Nicolas Dose, ou mauvaise nouvelle ?
Nouvelle. Jean-Marc fait de l'économie, il a 100% raison. Normalement, ce qui doit tirer les salaires à l'eau, c'est la productivité.
Ça, c'est la théorie.
Non, mais c'est la vraie. Ouais. Pas que la théorie, c'est juste
c'est la vérité,
le moteur
c'est
des
la
salaires.
Base, ouais.
Et la productivité, plus qu'ailleurs en France, elle est en déclinant depuis 2019. Alors moi, je vais faire de la presse et je vais être 100% pas d'accord avec ce que dit Jean-Marc. Moi, je vais dire que c'est quand même une bonne nouvelle que l'ensemble des salariés retrouvent compensés de l'inflation, alors que jusqu'ici, il n'y avait que les salariés payés un SMIC qui était compensé de l'inflation. Je vais dire que c'est une bonne nouvelle parce que justement, la hausse des salaires est là, la hausse des salaires réels est positive, mais la hausse des salaires ralentit, ce qui veut dire que tous ceux qui ont redouté la fameuse boucle prix-salaire, l'effet de second tour, a priori vont être déçus. Donc je vais dire que c'est une bonne nouvelle parce que la décélération de l'inflation se confirme. Donc je vais dire que c'est une bonne nouvelle parce que plus rien ne s'oppose à l'idée que la BCE devrait en théorie relâcher sa politique monétaire au début du mois de juin. Et je vais dire que c'est une bonne nouvelle même si il y a un gros bémol, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a eu des chiffres de consommation qui ont alimenté ce petit rebond de croissance supérieur aux prévisions au premier trimestre. Donc s'il y a de la consommation, Bercy peut être soulagé à l'idée que peut-être que son 1% de croissance est tenable. Après, si je fais un peu moins de la presse et un peu de l'économie, il est certain que le pouvoir d'achat aujourd'hui est quelque chose qui alimente le déficit commercial du pays. Et on sait bien qu'on est un pays qui peut-être consomme trop et ne produit pas assez.
Alors là, pas peut-être.
C'est une certitude.
C'est un pays qui ne travaille pas assez et qui consomme trop.
Jean-Marc fait de l'économie, moi je fais de la presse. Bon. Mais enfin voilà, c'est la productivité la clé du sujet.
Exactement.
Voilà,
vous avez vu, c'est un mot qu'on n'entend que sur BFM Business et nulle part ailleurs.
Il faut écouter BFM Business.
Tous les débats sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, le mot productivité n'est dans aucun débat, et alors que c'est la clé du sujet.
Mais c'est pour ça qu'il faut nous regarder.
Vous voyez que ça nous réunit.
Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on va voir ce que l'IA peut apporter à l'agriculture.
Business Today.
Et ce matin, on reçoit une agritech qui a levé 4 millions d'euros l'année dernière. Et ce matin, elle nous annonce un rachat. Bonjour Grégoire Dupré.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Abelio. J'accueille aussi Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Notre spécialiste IA. Alors Abelio, c'est une entreprise toulousaine. Vous proposez une solution aux agriculteurs à base d'IA pour les aider en fait à surveiller leur culture et à améliorer leur rendement. Votre rôle, c'est de dire en fait cette parcelle a besoin de tant d'engrais et pas plus grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne concrètement?
Alors c'est assez simple l'objectif pour nous, c'est vraiment d'utiliser et de mettre l'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Alors vous avez parlé d'un cas d'usage qui est effectivement l'optimisation des engrais, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, le premier générateur de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Donc c'est la première chose sur laquelle on s'est attelé il y a maintenant quelques années. Comment ça fonctionne? On vient chercher de la donnée. Alors, dans le cas des engrais, c'est du satellite, mais on a aussi d'autres verticales où on va utiliser de la donnée météorologique ou des drones, avec une analyse de la data qui est faite par des réseaux de neurones. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais voilà, de l'intelligence artificielle comme on peut la connaître de manière classique. Et cette intelligence artificielle-là va nous permettre de transformer cette donnée brute en donnée traitée. Et cette donnée traitée, on va l'interpréter agronomiquement pour en faire derrière un conseil pour l'agriculteur.
Anthony ?
Avec quel niveau de précision ? C'est-à-dire que j'imagine que l'interface pour l'agriculteur, c'est une tablette ou un smartphone avec une application. On va lui dire, voilà votre parcelle, elle est cartographiée. Mais c'est quoi ? C'est au mètre près, au centimètre près, où on vous dit, là, il faut mettre telle quantité d'engrais, telle quantité d'eau ?
Alors, c'est effectivement l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, quand on utilise le satellite, c'est l'ordre du mètre. En l'occurrence, de notre côté, nous, on utilise deux types de constellations. Pour entrer un tout petit peu dans le détail, on utilise des constellations dites publiques qui sont pilotées par l'Agence spatiale européenne. C'est les constellations Sentinel, qui là ont une précision de 10 mètres par 10 mètres. Et on utilise une constellation américaine privée qui s'appelle Planet et qui, elle, fait 3 mètres par 3 mètres en termes de précision. Quand on utilise des drones, là, on est vraiment au millimètre près.
Donc extrêmement précis. Jusqu'à présent, vous avez réussi à diminuer de combien l'usage des pesticides de vos clients et aussi leurs émissions de gaz à effet de serre? Vous avez réussi à quantifier cela?
Alors c'est extrêmement variable selon les situations. Forcément, plus on a une parcelle hétérogène, plus les besoins vont être forcément hétérogènes. Et donc plus le gain finalement qu'on va avoir en optimisant les différents intrants au sein d'une parcelle, les intrants qui désignent à la fois les produits phytopharmaceutiques, l'engrais et l'eau, vont être intéressants à optimiser. Quand on parle effectivement de pesticides, je vais préciser, on va parler d'herbicides, puisque c'est un de nos services où on détecte des mauvaises herbes par drone pour ensuite ne pulvériser que aux endroits où c'est nécessaire. Aujourd'hui, les chiffres, ils sont impressionnants. On arrive à des réductions de 84,8%.
C'est colossal. Donc j'imagine que vous voyez le plan éco-phyto du gouvernement d'un bon oeil. C'est du pain béni pour vous?
C'est du pain béni, effectivement, mais l'objectif, c'est quand même d'accompagner les agriculteurs. J'ai toujours une volonté en tête à chaque fois que nous développons un nouveau service pour nos agriculteurs. C'est d'abord qu'il apporte, avant de penser au réglementaire, qu'il apporte d'abord un aspect financièrement positif aux agriculteurs.
Ouais, donc ils vont quand même être obligés d'aller vers ce genre d'outils de plus en plus, quoi.
Complètement.
Ça va être un avantage compétitif pour eux par rapport à ceux qui ne feront pas appel à ce genre de service, parce que forcément, avec la pression réglementaire, ils vont se retrouver coincés, quoi.
C'est ça. Le mot de l'agriculture, c'est sa compétitivité. On en a beaucoup parlé ces derniers mois avec les manifestations qu'il y a eu par rapport aux différents pays, à la fois européens ou presque européens, et autres pays, notamment de l'Amérique du Sud. Donc l'objectif, c'est de pouvoir être plus performant grâce à des outils d'aide à la décision et en phase avec la réglementation.
Et alors, vous nous annoncez ce matin une nouvelle étape dans votre croissance, puisque vous rachetez la start-up Scanopy, avec elle vous vous lancez sur le nouveau marché, celui de la viticulture. Qu'est-ce que ça va changer? C'est la même chose? Les outils sont les mêmes ou ça va radicalement changer?
Comme notre expert pourra le dire, ce qui est le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et cette donnée, si on ne l'a pas, on ne fait rien. Pour l'avoir dans l'agriculture, on a un gros problème. C'est qu'on a une répétition par an. Contrairement à d'autres domaines du numérique, où on peut avoir de la répétition de manière régulière, de l'acquisition finalement quasi constante, dans l'agriculture, c'est une acquisition égale une année. Donc le fait de racheter cette société, de reprendre cette société, de les intégrer, ça nous permet de récupérer plusieurs années de données et de rendre nos solutions directement fonctionnelles en viticulture et en particulier sur différents sujets.
Alors il y a un autre nerf de la guerre dans l'IA, je ne sais pas, mais dans l'agriculture, c'est celle des coûts aussi, parce que pour le coup, les solutions sont intéressantes et on voit que la promesse est vraiment extrêmement intéressante pour les agriculteurs, mais derrière, en termes de retour sur investissement, ça leur coûte combien et en combien d'années ils peuvent rentabiliser ce genre d'investissement?
Clairement, je suis en phase à 100% avec vous. La clé et de succès d'une start-up agritech aujourd'hui, c'est de démontrer sa rentabilité pour l'agriculteur, ouais, pour l'utilisateur final. Donc, je parlais de plusieurs verticales. On va faire un exemple assez simple sur la partie herbicide. Je parlais tout à l'heure de 84,8% de réduction d'herbicide. Un herbicide aujourd'hui, en tout cas sur les cultures pour lesquelles on l'utilise, c'est 50 euros l'hectare. 50 euros l'hectare, si vous économisez 80% pour faire un calcul rapide, on économise 40 euros. 40 euros pour une prestation qui va coûter moins de 20 euros, c'est rentable pour l'agriculteur et c'est directement quantifiable.
Et puisqu'on parle de coûts, vous l'avez racheté combien ce Canopy?
Ah, malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas annoncer. J'aurais bien aimé, mais non, mais je ne pourrais pas.
Mais avec ce rachat, vous allez poursuivre vos implantations à l'international, notamment, j'ai lu, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Pologne, au Maroc. Là, c'est des nouveaux marchés. Est-ce que c'est des marchés qui, là encore, changent radicalement? Il faut s'adapter à chaque fois, à chaque exploitation, ou c'est à peu près la même chose?
C'est là où, justement, encore une fois, l'intelligence artificielle est magique, entre guillemets. C'est quand l'intelligence artificielle nous permet d'avoir une certaine flexibilité, finalement, dans l'interprétation agronomique, là où des modèles mathématiques sont généralement un peu trop cartésiens. Et donc cette flexibilité-là, elle nous permet de rendre assez facilement opérables nos modèles sur différents pays, dans différents terroirs, avec différentes conditions pédoclimatiques.
Eh bien, on suivra ça de près. En tout cas, merci beaucoup Grégoire Dupré. Je rappelle que vous êtes le président d'Abelio. On continue à parler d'IA avec Anthony Morel, c'est Culturia.
BFM Business, Culturia, Anthony Morel.
Alors Anthony, en ce mois de mai, plein de week-ends à rallonge, ce qui n'est pas notre cas, l'IA va nous aider à lutter contre les cambriolages.
Oui, absolument, avec tous les systèmes de caméras de vidéosurveillance qui sont en train de se réinventer avec l'intelligence artificielle, des modèles de plus en plus sophistiqués, de plus en plus dissuasifs, à l'image de la PaintCam, une caméra de surveillance un petit peu particulière, puisque si elle détecte un intrus, elle tire à vue, elle lui tire dessus.
Ah oui, carrément.
Alors, elle lui tire dessus des balles de paintball.
Quand même.
Non, c'est un peu violent. Non, mais c'est pas des balles réelles. Évidemment, c'est des billes de paintball. En fait, cette caméra de vidéosurveillance, elle est équipée d'un système de reconnaissance faciale, comme le sont certains modèles haut de gamme. Donc, c'est de l'IA, hein, pour le coup. Donc, en gros, la caméra, elle est paramétrée pour reconnaître les gens de la famille, le voisin, la nounou, tous ceux qu'on accepte dans la maison ou à l'extérieur de la maison, mais les autres, les intrus, ils vont être détectés aussi automatiquement, et à ce moment-là, il va se passer plusieurs choses. La caméra va mettre en joue la personne, va vous envoyer une petite alerte sur votre téléphone, et si elle n'est pas reconnue, alors c'est ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent, elle se met à bombarder, voilà, des billes de paintball. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du paintball, mais ça peut quand même faire mal. Donc il y a un effet déjà dissuasif à la base. Puis le deuxième effet qui se coule, c'est que vous êtes facilement reconnaissable une fois que vous êtes peinturluré. Oui. C'est-à-dire que si la police vous arrête une demi-heure après de gugus qui sont pleins de peinture, globalement vous allez avoir du mal à nier que c'était bien vous. Bon, le petit inconvénient évidemment, c'est que si vous avez demandé au voisin ou à une connaissance de passer pendant les vacances ou pendant le pont et que vous les avez pas inscrits sur le système de reconnaissance faciale, ça risque de pas très bien se passer, quoi.
Oui, on risque de perdre des amis, effectivement. Moi, sans aller jusque là, c'est vrai que le marché des caméras de surveillance pour la maison, il est en train de se réinventer grâce à l'IA.
Ouais, exactement, des caméras connectées qui vont avoir de plus en plus de fonctionnalités, qui permettent de détecter n'importe quel mouvement suspect, qui vont être dotés effectivement de technologies de reconnaissance faciale, c'est de plus en plus le cas, mais vous avez aussi des modèles où vous allez pouvoir voir par les yeux de la caméra comme une sorte de chien de garde robotique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir à la fois la téléguider à distance, mais elle va aussi être un peu comme les robots aspirateurs, être capable de cartographier l'intégralité de votre maison et de réaliser des rondes, d'aller voir s'il se passe quelque chose d'anormal. Vous avez d'autres modèles qui sont couplés à des diffuseurs de fumée. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a quelqu'un qui entre dans la maison, vous allez avoir une fumée épaisse qui va se propager et ça va aveugler les cambrioleurs en moins d'une minute. Et puis, au-delà des caméras, vous avez aussi des systèmes d'ampoules intelligentes. Alors ça, c'est très intéressant. En gros, c'est des ampoules qui vont apprendre de vos habitudes. Quand vous êtes à la maison, vous ne faites même pas attention, mais ces ampoules, elles vont comprendre que voilà, vers 23h, en général, vous passez du salon à la chambre, à telle heure, vous vous réveillez. Et donc, en gros, on va reproduire ces schémas-là quand vous n'êtes pas là. Donc en votre absence, ces ampoules vont simuler votre présence, là encore pour dissuader les cambrioleurs. Alors c'est pas très écolo parce que forcément vous utilisez de l'électricité, la lumière quand vous êtes absent, mais pour le coup il y a un côté dissuasif qui est assez évident.
Alors ça, c'est pour l'intérieur de la maison, il y a aussi des solutions pour le jardin.
Oui, alors il y a notamment une solution Alors là encore assez extrême, et pour le coup il faut avoir les moyens parce que c'est pas donné, c'est le drone de sécurité résidentielle. Alors c'est très spectaculaire, c'est-à-dire qu'en gros vous avez un drone qui est caché dans une sorte de niche, il y a des petits capteurs qui sont placés un petit peu partout dans la propriété, et donc si elle détecte une présence, là encore un intrus pendant que vous n'êtes pas là, et bien à ce moment-là le drone va sortir de sa niche et filmer, se balader au-dessus de la personne et la filmer et vous envoyer le flux en streaming en temps réel. Donc vous pouvez voir exactement ce qui se passe et alerter évidemment les forces de l'ordre en cas de besoin.
Et ça coûte cher.
Ça coûte quand même 10 000 euros ça.
Oui.
Donc il faut avoir la maison qui va avec, quoi. Voilà. Sinon ça sert à rien.
On est bien d'accord. Merci beaucoup Anthony Morel. Et dans un instant, le journal de 7h30, la flamme olympique arrive ce matin à Marseille. C'est l'événement du jour et évidemment les sponsors comptent bien capitaliser dessus. On en parle dans un instant. Un peu plus de 7h30 sur BFM Business. À la une ce matin, la flamme olympique allumée en Grèce le 26 avril. Ça y est, elle arrive enfin sur le territoire français, Nathan.
Oui, première étape, Marseille. 400 communes seront ensuite traversées avec 65 villes-étapes. Animation, concerts, merchandising. Les sponsors officiels du relais comptent bien capitaliser sur l'événement. Zidane Azouzi.
Dans les reflets de la flamme olympique, deux groupes briront, BPCE et Coca-Cola. Ce sont les parrains officiels pour ces 68 jours de déambulation sur le territoire. Le géant bancaire a déjà mis en avant son trois-mâts Le Bel M, qui amène la flamme à Marseille et s'appuiera ensuite sur son réseau de banques populaires et caisses d'épargne pour marquer les étapes de la flamme. Laurent Buffard, directeur de la communication BPCE.
On a évidemment des clients qui vont être porteurs de la flamme, qui ont candidaté pour cela. On a des collaborateurs qui souhaitent également s'investir, soit comme relayeurs, mais aussi pour venir animer les stands, animer la parade dans l'ensemble des villes-étapes. On attend plus de 20 millions de personnes au bord des routes. Donc, je ne sais pas si on mesure encore l'ampleur de ce qui va se passer.
Chez Coca-Cola, 6 concerts sont prévus avec des distributions de produits gratuits dans toutes les villes étapes. Sanofi, CMA-CGM, Sephora, La Poste, Airbnb qui profitent de l'événement pour mettre en avant sa présence dans 24 000 localités en France.
C'est une étape clé et les pilotes d'un long feuilleton à Flamanville. EDF va enfin pouvoir mettre en marche son EPR.
L'autorité de sécurité, de sûreté nucléaire, a donné hier son feu vert à la mise en service de ce réacteur de nouvelle génération. La fin d'un chantier qui a cumulé 12 ans de retard et des milliards d'euros de surcoûts, Raphaël Couder.
Oui, c'est la fin d'une succession de presque 20 ans de déboires pour EDF. Décembre 2007, Nicolas Sarkozy pose la première pierre de ce chantier qui doit aboutir à la mise en service du plus puissant réacteur du parc français. Démarrage prévu initialement en 2012, sauf que dès le début de la construction, les difficultés s'enchaînent. Fissures dans le béton de la dalle, anomalies dans l'acier de la cuve. Le chantier est plus tard également retardé par la découverte de certains défauts sur les soudures. Des difficultés qui ont, au fil des années, fait exploser la facture. Au total, le coût de cette EPR dépasse désormais les 13 milliards d'euros selon EDF, soit plus de 4 fois le budget initial.
Mais alors Raphaël, il va falloir encore patienter, il reste encore des étapes avant que le réacteur ne produise de l'électricité.
Oui, ce feu vert du gendarme du nucléaire va permettre à EDF de commencer à charger le combustible dans les prochains jours, mais ce n'est effectivement que le début d'un long processus de mise en marche. EDF va devoir réaliser tout un tas de tests sur son réacteur à chaque étape de la montée en puissance. Le démarrage de la production d'électricité et la connexion au réseau sont prévues pour cet été. La pleine puissance doit ensuite être atteinte pas avant la fin de l'année 2024. Entre-temps, EDF va devoir solliciter encore 3 avis de l'autorité de sûreté nucléaire, à chaque fois pour vérifier que tout se passe bien. À noter également que Flamanville n'en a pas fini avec les travaux. Le réacteur devra être arrêté en 2026 pour remplacer le couvercle de la cuve qui présente des anomalies de fabrication.
Merci Raphaël. Et en Grande-Bretagne, cette annonce d'investissement de 200 millions de livres pour produire un nouveau type de combustible nucléaire indispensable pour la prochaine génération de réacteurs. Cet investissement servira à construire la première installation d'Europe capable de produire ce combustible. La mise en route est prévue pour 2031.
Chez Atos, on se prépare à vendre la filiale critique de systèmes nucléaires.
Worldgrid conçoit les systèmes de pilotage des centrales nucléaires en France, mais aussi en Chine, au Royaume-Uni. C'est 15% du parc mondial. Atos va donc se séparer de sa filiale selon les informations des Échos, alors qu'il cherche actuellement son repreneur. Dassault Systèmes ou Scalian sont notamment évoqués comme candidats pour reprendre la filiale. Côté résultat, c'est un bénéfice net record pour Toyota ce matin, proche des 30 milliards d'euros. Le double de l'année précédente grâce aux ventes de véhicules hybrides. Mais le constructeur japonais anticipe un recul de son bénéfice de près de 30% pour son prochain exercice. Toyota prévoyant de lourds investissements et qui annonce un plan massif de rachat d'actions de 6 milliards d'euros.
Autre résultat, ceux d'Alstom qui annonce ce matin qu'il demande à ses actionnaires environ 1 milliard d'euros par le biais d'une augmentation de capital. Le fabricant français de trains affiche une perte nette par du groupe de 309 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024 contre une perte de 132 millions lors de l'exercice précédent. On va y revenir très en détail dans le journal de 8 heures. La hausse des salaires ralentit, mais reste au-dessus de l'inflation, et ce pour toutes les catégories socio-professionnelles.
C'est ce qui ressort des chiffres publiés par la DARES, et cette fois, les cadres sont eux aussi concernés. Jusqu'ici, ils perdaient du pouvoir d'achat. Caroline Morisseau.
Cette fois, plus d'exception. Même les cadres voient leur salaire progresser plus vite que l'inflation. Selon la DARES, leur salaire mensuel de base, c'est-à-dire leur rémunération brute hors prime et heures supplémentaires, a progressé de 2,8% sur un an, alors que dans le même temps, l'inflation a continué de ralentir pour atteindre 2,1%. Pour ces cadres, cela représente donc un gain de pouvoir d'achat de 0,7%. C'est une première. Jusqu'ici, les cadres étaient les grands perdants de l'hyperinflation. Leur salaire progressait moins vite que la hausse des prix, contrairement aux ouvriers, qui sont ceux qui ont bénéficié des plus fortes augmentations compte tenu des pénuries de main-d'œuvre et de l'indexation du SMIC sur l'inflation. Pour le reste, les chiffres de la DARES montrent que les hausses de salaire ralentissent, toutes catégories de salariés confondues. Le salaire mensuel de base a progressé de 3,3% sur un an contre 3,9% le trimestre précédent. Une tendance qui devrait se poursuivre. Tous les experts sont unanimes. Cette année, les augmentations s'annoncent moins généreuses que l'an passé.
Et on va revenir dans le détail sur cette hausse de salaire avec Benoît Serre, le vice-président de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH.
L'ancienne plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies FTX, tombée en faillite fin 2022, devrait récupérer entre 14 et 16 milliards de dollars, la valeur totale des actifs de ses anciens clients. Le groupe précise dans un communiqué que la totalité des créanciers non gouvernementaux seront remboursés à 100% de la valeur de leur réclamation, validée par le tribunal des faillites.
7h38 sur BFM Business. Tout de suite, le monde qui bouge.
Good morning business, le monde qui bouge.
Avec Benaouda Abdedaïm. Bonjour Benaouda. Les États-Unis sont optimistes quant à un accord de trêve à Gaza. Les pourparlers se poursuivent aujourd'hui en Égypte. L'Arabie Saoudite, de son côté, en appelle à une intervention internationale. Comment la position saoudienne est-elle en train d'évoluer?
Riyad semble encore placer ses espoirs dans la capacité des Américains à amener le gouvernement israélien à ne pas déclencher un assaut de grande envergure à Rafah, la ville de la bande de Gaza qui donne sur le désert égyptien du Sinaï. En attendant, les médias saoudiens font eux aussi le constat que l'armée israélienne a pris le contrôle du passage frontalier vital pour un acheminement d'une aide humanitaire. Sans illusion sur la suite des événements, un quotidien de Jeddah écrit que cela a lieu malgré des semaines d'appels des alliés et des organisations internationales pour que Israël s'abstienne. Dans une mise en garde formelle, la diplomatie saoudienne réclame ainsi une intervention immédiate de la communauté internationale pour mettre fin, je cite toujours, au génocide perpétré par Israël contre des civils non armés. Dans son communiqué tranchant, le ministère des Affaires étrangères évoque une campagne sanglante systématique par les forces israéliennes d'occupation visant à déplacer les habitants vers l'inconnu compte tenu de l'absence de zones sûres après les destructions massives causées par la machine de guerre israélienne. Fin de citation. Dans les limites du cadre de ce positionnement solennel saoudien, des commentateurs se tournent alors de nouveau vers les partenaires américains et européen d'Israël. Un éditorialiste soutient que ce pays est de la sorte en train de tester les valeurs les plus fondamentales dont se prévaut l'Occident. L'Arabie Saoudite ne précise pas ce qu'elle entend par intervention. Elle pourrait, sur le principe, faire partie des États arabes favorables à l'idée d'une force multinationale de maintien de la paix. Le chef de la diplomatie saoudienne a toutefois affirmé qu'il serait difficile de s'engager sans au préalable avoir établi avec clarté les conditions. Pour l'heure, Riyad s'en tient donc au verbe.
Et est-ce que les Saoudiens sont prêts à aller à la rupture ?
Ce n'est pas une perspective du pouvoir royal. Et quiconque la met trop en avant s'expose à un sévère rappel à l'ordre, voire davantage. Il est ainsi fait état, sans aucune confirmation officielle, d'arrestation de citoyens ayant plaidé sur les réseaux sociaux de rompre avec Israël. Une publication spécialisée à Londres rapporte par exemple celle d'une personne qui a lancé un appel à boycotter les marques américaines. Un cadre supérieur du plan économique stratégique Vision 2030 aurait également été détenu pour avoir dépassé les limites fixées. La justification générale avancée est que sous couvert de dénoncer Israël, il y a le risque de céder aux opérations d'influence menées par l'Iran pour faire dérailler les négociations de normalisation diplomatique et économique entre Riyad et Tel Aviv. L'État saoudien vise toujours donc par ce biais à obtenir de Washington des garanties militaires les plus étendues possibles. Téhéran le prend suffisamment en considération pour que mercredi dernier, le guide suprême de la révolution iranienne exprime en personne sa crainte de voir aboutir un tel rapprochement israélo-saoudien. Riyad a tenté quand même dernièrement de pousser un plan B auprès des États-Unis en mettant Israël de côté. Ce serait un traité de défense bilatéral américano-saoudien autour duquel se disposeraient des accords dans le nucléaire civil et les technologies de pointe. Une illusion d'après un ancien conseiller de haut rang du ministère américain de la Défense. Il souligne que la principale raison pour laquelle existe à Washington un consensus entre démocrates et républicains sur un méga accord avec l'Arabie Saoudite, à tort ou à raison, est qu'Israël obtiendrait la reconnaissance saoudienne. Enlever cela, écrit-il, et tout s'effondre. À cet égard, le chef du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a eu samedi cette formule : vous ne pouvez pas démêler une pièce des autres. Le pouvoir royal saoudien le prend encore en compte dans son approche de la guerre à Gaza.
Merci Ben Aouda, une chronique Le Monde qui bouge à retrouver sur en podcast sur notre appli et notre site internet. Dans un instant, notre invité à 7h45, c'est Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, Association des DRH. Il va nous expliquer comment les entreprises organise en ce mois de mai particulièrement propice au week-end prolongé avec 18 jours ouvrés sur les 31 du mois. Ça va coûter, selon l'INSEE, entre 4 et 6 milliards d'euros à l'économie. Quel impact sur les organisations ? On en parle dans un instant. A tout de suite.
Good morning business, l'édito.
Emmanuel Soufi, ce matin, bonjour, grand reporter au Nouvel Obs. Emmanuel, on en a parlé à l'instant avec Benoît Serre, l'impact des jours fériés sur l'activité économique. Les ponts de mai font le bonheur des salariés, un peu moins des DRH et des entreprises.
Oui, alors le joli mois de mai, hein, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on est certes mercredi, mais c'est déjà le week-end pour de nombreux Français. Cette semaine se succède, ça vous a pas échappé. Deux jours fériés, le 8 mai aujourd'hui et demain l'Ascension. Les écoles étant fermées vendredi, c'est l'occasion parfaite de profiter des premiers rayons de soleil en famille, dans son jardin ou en bord de mer. Car cette année, avec des ponts tombant en semaine, c'était le jackpot. Mois de mai ne compte ainsi, attention, que 18 jours ouvrés sur les 31 qu'il affiche pourtant au compteur. Il suffisait par exemple de poser juste 5 jours de congé payé ou de RTT pour être off quasiment 2 semaines, dont les entreprises, autant vous dire que la bataille fut féroce pour essayer d'emporter la mise, car cette particularité du calendrier ne se reproduira pas avant 2054. Les DRH et donc les managers ont dû veiller au grain pour éviter que les bureaux ne soient totalement désertés et que les dossiers ne pâtissent pas de ce droit à repos bien mérité. Car oui, en matière d'économie, le moindre ralentissement peut être fatal à la productivité.
Alors justement, est-ce que cette succession de ponts va avoir un impact sur la croissance ?
Alors, gardez toujours un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Selon l'INSEE, un jour férié coûte en moyenne 1,5 milliard d'euros à l'économie française. Au total, la facture pourrait donc osciller entre 4 et 6 milliards d'euros selon l'organisme. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que des secteurs clés comme le bâtiment, l'industrie, tourneront au ralenti faute d'effectifs suffisants. Ce sont des chantiers, des lignes de production, des projets qui avanceront moins vite que prévu parce qu'il est compliqué de trouver et de former de la main-d'œuvre pour boucher les trous, surtout dans des secteurs où les pénuries d'emplois persistent. Sauf que les entreprises, et Benoît Serre de la NDRH l'a rappelé tout à l'heure, les entreprises, elles savent s'adapter et qu'il n'y a quand même pas plus prévisible qu'un calendrier connu à l'avance. Elles risquent donc de rattraper les retards pris durant les semaines et les mois qui viennent.
Alors dans d'autres secteurs, au contraire, cette avalanche de courtes vacances est plutôt du pain béni.
Oui, complètement. Sur la côte d'Azur, sur la côte atlantique, en Normandie ou encore en Bretagne, autant vous dire qu'on sort les parasols et les tables sur les terrasses, les restaurateurs se frottent les mains face à cet afflux de touristes en mal de soleil. Même enthousiasme dans les musées, les campings, les parcs d'attractions et autres activités touristiques. Les gîtes de France notent déjà un taux d'occupation de plus de 80% pour le week-end de l'Ascension et celui de la Pentecôte. En 2023, l'hôtellerie avait vu son chiffre d'affaires bondir de 20%. Là, avec pareil moisson de pont aussi inédite, le tourisme risque de démarrer sur les chapeaux de roue pour cette saison et compenser les manques à gagner dans d'autres secteurs. Donc, pas de panique, buvons frais et profitons. Notre PIB s'en remettra.
Évidemment, il s'en remettra. Merci beaucoup, Emmanuel Soufi. À suivre sur BFM Business, le journal de 8h. On va revenir sur les résultats d'Alstom qui lance, ça y est, c'est officiel, une augmentation de capital d'environ 1 milliard d'euros. Le groupe traverse une crise de confiance. On va y revenir dans le détail. Et puis à 8h15, on va faire un focus sur l'immobilier. Le marché peine à retrouver un nouvel élan. Les prix sont encore trop hauts. Le volume des crédits baisse selon la Banque de France. Le marché de la location est saturé. Y a-t-il des raisons d'espérer ? On va voir ça avec Guillaume Martineau, le patron d'Orpi. Ce sera à 8h15. À tout de suite.
BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, présenté par Stéphanie Collet.
7h59 sur BFM Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est la matinale de l'économie. On est ensemble jusqu'à 9h. À la une, Alstom a publié ses résultats de son exercice décalé. Le groupe lance une augmentation de capital d'un milliard d'euros. La perte nette d'Alstom a plus que doublé à 309 millions d'euros en 2023. Tous les détails dès le début du journal. La hausse des salaires ralentit au premier trimestre mais reste au-dessus de l'inflation. C'est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Et cette fois, toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées, y compris les cadres qui jusqu'ici perdent du pouvoir d'achat. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, on va en débattre avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel à 8h40. Et puis à 8h15, on va parler immobilier. Le marché peine à retrouver un nouvel élan. Les prix sont encore très élevés. Le volume des crédits baisse. Le marché de la location est saturé. Alors, y a-t-il des raisons d'espérer ? On verra ça avec Guillaume Martineau, le patron d'Orpi. Mais d'abord, il est 8h. C'est le journal avec Nathan Cocampo.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Nathan, on vient d'avoir les résultats d'Alstom. Le groupe finit son année dans le rouge et creuse ses pertes.
Le constructeur de trains enregistre une perte nette à 309 millions d'euros pour son exercice 2023-2024. Par ailleurs, le groupe, très endetté, confirme qu'il va bien procéder à une augmentation de capital. Raphaël Couder.
Oui, Alstom profite de la publication de ses résultats annuels pour annoncer cette opération de recapitalisation. 1 milliard d'euros d'augmentation de capital. Donc, c'était l'option de dernier recours, mais c'était devenu absolument nécessaire face à la situation critique de la trésorerie du groupe Alstom, qui finit cet exercice encore avec un flux de trésorerie négatif de l'ordre de 500 millions d'euros, ce qui porte sa dette globale à environ 3 milliards. C'est une situation paradoxale dans un contexte où la demande pour le ferroviaire progresse partout dans le monde. Alstom continue d'afficher d'ailleurs un carnet de commandes toujours très solide. Ce dérapage, il est en fait lié à plusieurs facteurs. Les livraisons de
certains trains, notamment en Île-de-France avec le RERB, ont pris du retard, ce qui a décalé certaines rentrées d'argent. Et par ailleurs, le groupe est aussi pénalisé par certains contrats dits à problème, contrats hérités du rachat du Canadien Bombardier. Toutes ces difficultés ont fait plonger le cours de l'action de 40% depuis l'été dernier, ce qui a même fait sortir Alstom du CAC 40. Il était donc devenu indispensable de rassurer les investisseurs.
Et pourtant, Raphaël, pourtant le groupe s'était démené depuis 6 mois pour trouver des solutions.
Oui, Alstom avait mis les bouchées doubles, d'abord à travers des cessions d'actifs. Le constructeur a par exemple vendu sa filiale dédiée à la signalisation en Amérique du Nord pour 630 millions d'euros. Alstom est également en train de se séparer d'environ 1500 salariés dans le monde. Mais voilà, tous ces efforts se sont révélés insuffisants pour éponger la dette, d'où cette augmentation de capital annoncée ce matin, annonce qui préfigure par ailleurs certains grands changements qui se profilent au sein de la gouvernance du groupe, puisque dans un peu plus d'un mois, le 20 juin prochain, le PDG Henri Poupart-Lafarge cédera son poste de président à Philippe Petit-Collin, l'ex-DG de Safran.
Merci Raphaël. Et autre patron a cédé son poste, Jean-Pierre Farandou. Il ne sera pas reconduit à la tête de la SNCF.
Une décision annoncée hier par le gouvernement. Il restera à son poste jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Hasard du calendrier, il était auditionné le même jour par les sénateurs. L'occasion pour lui de défendre son bilan. Jean-Baptiste Huette.
Un héros au Sénat. Durant toute son audition, le bilan de Jean-Pierre Farandou a été salué par les sénateurs. Des sénateurs outré par la manière dont le PDG de la SNCF a été éconduit. Brutalité gouvernementale, camouflet. Certains sénateurs en ont profité pour étriller Bruno Le Maire. Lui, il est toujours là, s'est agacé l'un d'eux. Jean-Pierre Farandou, ces derniers jours, a été critiqué pour avoir signé cet accord sur les fins de carrière jugé trop généreux. Et pourtant, ce n'est pas lui qui l'a initié, Jean-Pierre Farandou.
C'est Matignon qui conduisait la réforme des retraites et donc tout à fait logiquement qui avait les contacts avec les partenaires sociaux et qui a souhaité effectivement ouvrir une perspective de sortie de crise en disant les entreprises, les branches et les entreprises seraient bienvenues à ouvrir ce genre de négociations, ce qu'on a fait.
À presque 67 ans, le PDG de la SNCF était également touché par la limite d'âge fixée à 68 ans. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'est pas reconduit. Jean-Pierre Farandou a défendu son bilan. Crise Covid traversée, 3 exercices successifs dans le vert, dialogue social pacifié. Le PDG de la SNCF n'a pas démérité. Qui maintenant pour le remplacer? Le nom de Jean Castex circule, tout comme celui de Christophe Fanichet ou encore Alain Krakowicz, deux barons du groupe ferroviaire.
Et hier soir, Bruno Le Maire a réagi à cette non-reconduction de Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF en insistant sur la limite d'âge pour justifier son départ.
Dans l'affaire qui oppose Renault à Rachida Dati, la Cour d'appel de Paris rendra son verdict le 2 juillet concernant la ministre de la Culture. Rachida Dati est mise en examen depuis juillet 2021 pour corruption et trafic d'influence. Elle demande à nouveau à mettre fin aux poursuites et invoque la prescription dans cette affaire.
La première tournée européenne de Xi Jinping se poursuit.
Après la France, le dirigeant chinois vient d'atterrir en Serbie, puis il se rendra en Hongrie demain. Deux pays dans lesquels la Chine a massivement investi ces dernières années. Astrid Olivier.
Un total de plus de 15 milliards d'euros d'investissement pour les deux pays. En Serbie d'abord, Pékin participe à 60 projets d'infrastructure et fournit un tiers des investissements étrangers du pays. Des entreprises chinoises ont aussi racheté des industries lourdes serbes dans le secteur de l'énergie et de la métallurgie. En Hongrie, le constructeur automobile BYD, basé à Shenzhen, est en train de construire sa première usine européenne. Deux autres entreprises chinoises de batteries pour voitures électriques sont aussi en train de s'installer. Parmi les projets phares de ce partenariat entre Chine, Serbie et Hongrie, il y a la ligne ferroviaire entre Budapest et Belgrade. Négociée dans le cadre des accords de la route de la soie, le coût du projet est estimé à 2 milliards d'euros et est financé à 85% par un prêt chinois.
En Allemagne, 30 des plus grands groupes du pays comme Siemens, BMW, BASF ont signé une tribune contre l'extrême droite. « Debout pour vos valeurs », c'est le titre de ce texte destiné à alerter leurs 1 700 000 salariés du risque économique qui pèse sur l'Allemagne si l'extrême droite gagne du terrain aux élections européennes prévues dans un mois. Une alliance inédite dans le pays, l'AFD, le parti d'extrême droite, ne cesse de grimper dans les sondages ces derniers mois et pourrait récolter environ 15% des voix selon une récente estimation. Amazon annonçait hier un investissement de 8,4 milliards d'euros dans le cloud et l'intelligence artificielle à Singapour. Un investissement record. L'Asie du Sud-Est ne cesse d'aiguiser l'appétit des géants de la tech américaine. Notre correspondante en Asie, Marion Ziegfeld.
La petite cité-État a décroché le gros lot avec AWS qui va y doubler ses investissements et créer ainsi près de 50 000 emplois sur 4 ans. Un investissement qui s'inscrit dans la vision de Singapour de devenir le hub de l'intelligence artificielle et qui va y consacrer 700 millions d'euros sur 5 ans. Mais les investissements ne se limitent pas qu'à Singapour. L'annonce d'Amazon suit celle de Nvidia, le pionnier américain de l'intelligence artificielle, qui mise sur l'Indonésie avec la construction d'un centre d'IA en 2024. Mais c'est aussi Microsoft qui annonce des investissements records en Indonésie et en Malaisie dans le cloud et l'IA. Avec une économie numérique en plein essor, l'Asie du Sud-Est et ses quelques 700 millions d'habitants est aujourd'hui le moteur de la croissance de l'infrastructure cloud mondiale. C'est aussi là que se joue la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Si aujourd'hui les Américains dominent le marché du cloud en Asie du Sud-Est, les entreprises chinoises comme Alibaba, Tencent ou Huawei occupent également le terrain. Sur l'intelligence artificielle, la course contre la montre est lancée et les Américains investissent tous azimuts pour garder la main.
C'est une entreprise que l'on suivait de près sur BFM Business. Sogneau, spécialiste français de l'intelligence artificielle, va être racheté par Samsung.
Une acquisition à 85 millions d'euros avec laquelle le Coréen compte améliorer ses systèmes de diagnostic médical de pointe, notamment dans la prise en charge des femmes enceintes grâce à des systèmes d'échographie améliorés par l'IA. Dans le secteur du luxe, le Suisse Richemont, propriétaire de Cartier de Van Cleef & Arpels, complète son portefeuille de marques avec le rachat de Vhernier, maison italienne de haute joaillerie. Ce secteur attire particulièrement les géants du luxe depuis plusieurs mois. Pauline Tadevin.
Créé il y a 40 ans par une artiste passionnée de gemmes dans la ville piémontaise de Valenza, réputée pour son savoir-faire en orfèvrerie, Vhernier se distingue de ses concurrentes par des créations singulières, sculpturales et colorées. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. Pour les analystes de Bernstein, le chiffre d'affaires de Vhernier est compris entre 50 et 100 millions d'euros. C'est une acquisition petite mais positive d'après ces analystes qui voient cette maison indépendante comme l'une des pépites du secteur. Dans une note, il salue la capacité de Richemont à faire changer d'échelle les marques comme il l'a fait depuis 5 ans avec une autre maison italienne, Buccellati, ou il y a 25 ans avec Van Cleef & Arpels qui représente aujourd'hui 20% des ventes totales du groupe. Vhernier, que des rumeurs voyaient ces derniers mois tomber dans l'escarcelle de Kering, est donc une carte en plus dans la main de Richemont sur un marché de la joaillerie compétitif qui pèse désormais près de 30 milliards d'euros d'après un récent rapport de Bain & Company.
Le marché de l'immobilier est-il vraiment en train de reprendre des couleurs? Alors que la Banque de France témoignait en début de semaine de la poursuite de l'effondrement du volume des crédits, les acteurs du secteur évoquent, eux, un frémissement depuis le début de l'année. Si la crise de l'immobilier est encore loin d'être terminée, la situation s'est tout de même améliorée par rapport à la fin de l'année dernière. Marie Cœur d'Orroy.
La baisse des taux d'intérêt des crédits a beau être limitée, elle continue à produire ses effets. Selon Crédit Logement CSA, en avril, le nombre de prêts accordés était en hausse de près de 70% par rapport à décembre. Et pour cause, le taux moyen, toute durée confondue, est retombé, lui, à 3,8% le mois dernier, contre 4,2% en fin d'année dernière. Sur un an, les indicateurs restent mal orientés, mais Crédit Logement CSA est convaincu que le rebond sera de plus en plus net au fil des mois. Une analyse qui paraît contradictoire avec celle de la Banque de France. Elle évalue à seulement 6,7 milliards le montant des nouveaux prêts accordés en mars, soit un plus bas de près de 10 ans. En réalité, ces chiffres sont ceux des crédits réellement décaissés par les banques. Ils traduisent donc encore la situation du marché d'il y a 3 ou 4 mois. Un décalage dans le temps, mais pas seulement. Si en volume, le rebond est là, en valeur, les prêts ne devraient pas repartir fortement à la hausse. Car malgré les réticences des vendeurs, les prix, eux, continuent de baisser.
Alors, est-ce qu'il y a un nouvel élan sur ce marché de l'immobilier? On va en parler avec Guillaume Martineau, le président d'Orpi. Il sera mon invité à 8h15.
Donald Trump échappe pour le moment à l'un de ses procès dans l'affaire où il est accusé d'avoir fait un usage négligent de documents classés confidentiels. Un tribunal fédéral de Floride reporte finalement à une date ultérieure le jugement de l'ancien président américain. Le candidat républicain pourrait donc échapper à ce jugement avant l'élection américaine de novembre. Donald Trump est actuellement en procès à New York pour des paiements suspects effectués avant l'élection présidentielle de 2016.
Merci Nathan. 8h11 sur BFM Business. Tout de suite, on va faire un point sur les marchés. Et pour ce morning briefing, on accueille Sabrina Sadghi. Bonjour Sabrina. Merci. Une séance calme en vue, jour férié oblige. Il faudra donc un peu patienter pour atteindre les 8100 points.
Et oui, ce sera encore un peu compliqué pour le CAC 40 de rallier le seuil symbolique des 8100 points après avoir sécurisé hier le seuil des 8000 points à la faveur d'une hausse de 1% portée par une nette détente du marché obligataire. Donc là, on tend vers une séance un peu plus molle, un peu plus indécise à l'image de la clôture à Wall Street où les trois indices majeurs ont clôturé en ordre dispersé. Sans surprise, les débats boursiers seront très très calmes ces prochains jours en absence de nombreux opérateurs. Quelques publications toutefois à se mettre sous la dent ce mercredi en Europe, dont les résultats annuels d'Alstom. Le groupe a publié un peu plus d'une demi-heure ses comptes annuels et a détaillé son plan de désendettement avec une opération de recapitalisation à la clé. En plus d'Alstom, on aura un peu d'automobile en Allemagne avec BMW et Continental aux États-Unis. On aura un peu de tech et ce sera avec Airbnb et Uber. Et du côté de la macroéconomie, on a eu la production industrielle en Allemagne et c'était à 8h. Et aux États-Unis, ce seront les stocks de gros pour mars qui seront à l'agenda du jour.
Merci beaucoup, Sabrina Sadghi. Tout de suite, Culturia avec Anthony Morel.
BFM Business, Culturia, Anthony Morel.
Alors Anthony, en ce mois de mai, plein de week-ends à rallonge, vous nous promettez que l'IA va nous aider à ne pas être cambriolés.
Ouais, c'est ça, avec des caméras de vidéosurveillance qui sont en train de se réinventer grâce à l'intelligence artificielle, des modèles de plus en plus sophistiqués, de plus en plus dissuasifs à l'image de la PaintCam, une caméra de vidéosurveillance avec de l'IA inside. Le principe est simple, si elle détecte un intrus, elle lui tire dessus.
Carrément, voilà, carrément. C'est radical.
C'est radical, alors c'est pas des vraies balles, hein. Je vous rassure quand même, c'est des billes de paintball, mais quand même ça peut faire mal. Le principe, c'est en fait une caméra qui est dotée d'un système de reconnaissance faciale, donc il y a de l'IA à l'intérieur qui lui permet d'identifier les personnes. Donc faut inscrire les personnes, on fait la reconnaissance du visage des différents membres de la famille, de la nounou, du voisin qui est censé venir surveiller la maison en cas d'absence, tout ça, ça passe. Mais si une personne n'a pas été inscrite, entre guillemets, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La caméra va d'abord la mettre en joue avec un petit rayon laser rouge, du genre, voilà, si tu t'approches un peu trop, ça va mal se passer. Elle vous alerte, vous recevez une alerte sur votre téléphone, vous voyez ce qui se passe en temps réel. Et si la personne ne part pas, pouf, 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 elle est bombardée de billes de paintball. Alors ça, d'abord, il y a un effet dissuasif quand même assez clair.
Oui, clairement.
Ça fait quand même tout drôle, hein, se recevoir des billes de paintball. Et puis, il y a un côté alors que je trouve assez malin, c'est que avec les billes de paintball, forcément, vous êtes peinturluré. Donc du coup, si vous faites arrêter par la police une demi-heure plus tard dans la rue avec de la peinture sur vous, vous aurez du mal à dire non, c'était pas moi, monsieur. Donc voilà, ça c'est déjà en cours de financement sur les plateformes de financement sur Kickstarter. Ça connaît un certain succès. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'évidemment, faut pas oublier d'inscrire des personnes sur la liste et les livreurs Amazon risquent d'avoir des mauvaises surprises aussi.
Et sinon, on risque de perdre des amis. Alors, sans aller jusque-là, jusqu'à aller se faire tirer dessus, c'est vrai que le marché des caméras de surveillance est en train de se réinventer grâce à l'IA.
Oui, comme beaucoup de marchés d'appareils électroniques, en réalité, on met de l'IA à l'intérieur et ça ajoute des fonctionnalités qui sont intéressantes, fonctionnalités de reconnaissance faciale. Et c'est vrai sur maintenant beaucoup de modèles haut de gamme de caméras de vidéosurveillance à la maison, mais ça ne s'arrête pas là. On a, par exemple, des caméras qui permettent on peut voir par les yeux de la caméra depuis son smartphone, même si on est à l'autre bout du monde. On va même pouvoir les télécommander comme une sorte de chien de garde robotique qui va soit pouvoir être utilisé et guidé à distance, soit même faire des rondes lui-même. C'est-à-dire comme les robots aspirateurs, il va cartographier l'intérieur de votre maison et puis il va se balader et vous envoyer des alertes s'il y a un problème. Il y a d'autres modèles qui vont être couplés avec des systèmes de diffusion de fumée. Donc là, c'est aussi dans un but de faire fuir les cambrioleurs. C'est-à-dire que vous avez une fumée épaisse qui commence à se diffuser dans la maison et si vous partez pas, en gros, vous êtes complètement aveuglé. Enfin, vous voyez plus rien tout simplement et vous ne pouvez plus sortir. Et alors il y a un autre truc qui commence à arriver aussi, ce sont les ampoules intelligentes dont le principe est assez malin. C'est des ampoules qui vont apprendre de vos habitudes quand vous êtes à la maison. Donc elles vont comprendre que en général sur les coups de 23h vous partez du salon vers votre chambre le matin à telle heure vous levez. Et en fait quand vous n'êtes pas là, eh bien elle va reproduire ces cycles pour donner l'illusion qu'il y a quelqu'un à la maison alors qu'en fait il y a personne. C'est pas très écolo. Mais là encore ça peut être dissuasif.
Alors ça, c'est pour l'intérieur de la maison. J'imagine qu'il y a aussi des solutions pour le jardin, l'extérieur.
Absolument. Alors, il y a les caméras, mais il y a beaucoup, beaucoup mieux que ça. À condition d'avoir quand même les moyens, c'est le drone de sécurité résidentielle. Alors ça, c'est assez étonnant. En gros, c'est un drone qui est placé dans une sorte, qui est caché même dans une petite niche dans le jardin. Il y a des capteurs un peu partout dans la propriété et si la présence d'un intrus est détectée, eh bien le drone s'envole de sa niche et va venir filmer en fait en surplomb l'intrus et vous envoyez en streaming les images. Donc vous les recevez en flux, en direct, vous pouvez voir ce qui se passe. Et là encore, prévenir évidemment les forces de l'ordre, ne pas intervenir soi-même, évidemment. Alors là, pour le coup, c'est quand même, faut avoir le budget, quoi. Ça coûte 10 000 euros, un drone comme celui-ci.
Ouais.
Donc voir la maison qui va avec.
Effectivement, merci beaucoup. Anthony, tout de suite, place au retail avec Eva Jacquot.
Good morning business, morning retail.
Alors Eva, ce matin on va parler sushi parce qu'ils n'ont plus la cote auprès des Français. Le marché est en légère décroissance et nécessite un repositionnement. Et justement, vous avez repéré des acteurs qui se lancent dans cette reconquête du sushi.
Oui, c'est vrai que le sushi essaie de petit à petit retrouver ses lettres de noblesse. Alors pour bien comprendre, c'est vrai que depuis ces 15 dernières années, le développement des sushis a été extrêmement intense. On l'a vu avec des acteurs comme Sushi Shop ou encore Planet Sushi qui ont développé leur offre. Le sushi s'est donc industrialisé, il a été dévalorisé un petit peu, c'est vrai qu'on a tendance à consommer le sushi par boîte de 12, de 24, et bien aujourd'hui c'est vrai que le marché s'est scindé en deux, on a les indépendants qui reprennent petit à petit des parts de marché aux acteurs historiques qui sont en perte de croissance, d'autant plus qu'il y a toujours une appétence assez forte pour la nourriture japonaise, et ce aussi auprès de la jeune génération, donc le sushi monte en gamme, c'est vrai que ce n'est plus qu'un simple produit de masse.
Alors justement, qui sont les nouveaux venus sur ce marché?
Alors, il y a des nouveaux venus, mais il y a aussi de belles endormies. Il y a cette enseigne qui s'appelle Matsuri. C'est un restaurant qui a été...
Oui.
Popularisé dans les années, vous connaissez par
les petits, avec les petits tapis roulants.
Les tapis roulants, exactement. Évidemment. Eh bien, Matsuri a été racheté par une nouvelle équipe, notamment par le fondateur un des fondateurs de Sushi Shop, qui a pour but de donc moderniser cette enseigne. Alors, je vous rassure, on garde quand même le tapis roulant, mais l'idée, c'est vraiment de transformer 12 restaurants. Les trois premiers ont déjà ouvert leurs portes. Ils vont aussi se développer en franchise. Ce nouveau format vise aussi à aller chercher une nouvelle clientèle, à rajeunir un petit peu la cible. Donc, une montée en gamme ici du sushi, tout en gardant quand même un prix accessible.
C'est très piégeux, Anthony, le tapis roulant, parce que vous en prenez plein, vous
êtes tenté,
et à la fin, la facture, ça fait mal quand même.
Évidemment, ils ont tout compris. Donc, finalement, là, c'est l'art de renouer avec le sushi. On ne s'adresse plus, évidemment, à la même cible aussi.
Oui, c'est vrai qu'on vient remettre l'art du sushi au centre de la scène. Alors, comme pour Matsuri, il y a aussi une nouvelle enseigne qui va voir le jour, ça s'appelle Tohana. Alors ici, c'est un mix entre sushi et aussi les tendances actuelles, notamment les pokéballs ou encore les gyoza, une tendance très très populaire au Japon. Ici, on fait aussi une place très importante à l'art culinaire, c'est-à-dire que là, on va venir vous découper le poisson frais en face de vous. On place aussi le riz, on fait une grande place au riz, puisqu'en fait, il faut savoir que pour devenir un maître, un sushiman, il faut 10 ans. Et bien ici, c'est vraiment, on part sur le même concept. Ici, c'est une ambition de 70 unités en France, des franchises également, une trentaine à peu près, et un panier moyen pareil, comme chez Matsuri, de une trentaine d'euros. Et le premier devrait ouvrir ses portes en juillet à Mougins, dans le 06.
Et ben voilà, on a le temps d'aller tester. Ça. Merci beaucoup, Eva. Dans un instant, sur BFM Business, on va parler immobilier. Le marché peine à retrouver un nouvel élan. Les prix sont encore trop hauts. Le volume des crédits baisse, selon la Banque de France. Le marché de la location est saturé. Alors, y a-t-il des raisons d'espérer? On va voir ça dans un instant avec Guillaume Martineau, le président d'Orpi. Il sera avec nous. À tout de suite.
Good morning business, le grand entretien.
8h15 sur BFM Business. Le printemps, on le sait, c'est la période propice pour les projets immobiliers. On va prendre le pouls du marché avec Guillaume Martineau. Bonjour, vous êtes le président de la coopérative Orpi. Alors, la baisse des taux d'intérêt des crédits immobiliers est certes limitée, 3,8% le mois dernier contre 4,2% en fin d'année dernière, mais elle continue à produire ses effets. Selon le Crédit Logement CSA, en avril, le nombre de prêts accordés était en hausse de près de 70% par rapport à décembre. Est-ce que vous sentez, vous aussi, un frémissement sur le marché?
Alors moi, je sens la même chose que la météo actuellement, c'est-à-dire que c'est le printemps, mais avec des giboulées. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on vit sur le pays. On est en mai, on voudrait du soleil et que tout aille bien, et puis il reste quand même quelques nuages et un peu de pluie. Donc en fait, on sent depuis le début de l'année une amélioration, mais qui n'est pas encore très marquée. C'est-à-dire qu'on est un peu mieux qu'en 2023, on revoit du monde dans nos agences, on refait des ventes, mais ça reste quand même tendu, c'est inégal. C'est-à-dire que suivant les endroits où vous vous trouvez sur le territoire, eh bien, vous n'avez pas la même perception. Donc, c'est une météo... On a l'impression d'être en mars avec une météo de mai. Donc, compliqué.
Compliqué. Comment vous l'expliquez, cette... On va filer la métaphore de la météo, cette météo mi-figue, mi-raisin. C'est les prix qui restent trop élevés.
Alors, si on continue dans la métaphore, je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais en tout cas, les prix restent trop élevés. On n'arrive pas à faire baisser les prix suffisamment. C'est-à-dire que la rencontre se fait à certains endroits entre des vendeurs et des acquéreurs. À d'autres endroits, les vendeurs, entre guillemets, résistent un peu en espérant justement que les prix de 2022 vont revenir. Donc, on s'applique, nous, professionnels de l'immobilier, à faire de la pédagogie, à expliquer que les prix doivent baisser un peu parce que les crédits sont devenus plus accessibles, plus abordables, mais c'est pas encore suffisant. On voit qu'il y a du tiraillement. On n'a pas aussi beaucoup d'aide au niveau du gouvernement et du Parlement, ce qui est une nouveauté, parce que la semaine dernière, Lionel Cos, le député des Landes, a essayé de faire passer une loi pour atténuer un peu les effets des taux de crédit, enfin de l'endettement. Il n'a pas été suivi. Donc, nous, on fait ce qu'on peut, mais on a du mal quand même sur le terrain à faire à augmenter cette baisse de prix qui doit rester limitée en fait, parce que il s'agit pas de faire effondrer les prix d'immobilier, c'est pas du tout le but, mais ça explique en tout cas cette difficulté qu'on a. Alors c'est mieux que 2023, c'est beaucoup moins difficile qu'en 2023, mais ça reste pas encore très dynamique.
Ça veut dire qu'on est sur une année de transition. À quoi il faut s'attendre pour le reste de l'année, selon vous?
Je pense qu'on va avoir cette baisse de prix qui s'amorce, qui est comprise par quelques-uns à différents endroits. Donc, on va avoir une année de transition. Je pense que on est dans la période de l'année où les ventes se font. On a augmenté nos ventes par rapport au premier trimestre 2023. Donc, c'est bon signe. On a augmenté aussi les estimations. Donc, encore une fois, c'est mieux. Alors, mais on sort, le problème, c'est qu'on sort d'années exceptionnelles 2021-2022 où là, tout flambait, donc forcément, il y avait une activité très importante. Mais là, on aura une année qui est une année de régulation, donc on revient à la normale. Donc, il faut que tout le monde se réhabitue à avoir un marché autre.
Un retour à la raison sur le marché de la vente. Sur le marché locatif, en revanche, on est toujours saturé.
Oui, la pression locative augmente et ne fait qu'augmenter. C'est pour ça qu'il faut soutenir les mesures qui ont été prises et qui vont être prises pour le logement, pour augmenter la construction, parce que on manque cruellement de logements à louer. Il y a toujours cette ambiguïté, en fait. C'est-à-dire qu'on parle de déficit de logement, de manque de logement. Il n'y a pas d'aide fiscale sur le locatif. C'est-à-dire que les bailleurs ne sont pas encouragés à être aidés pour louer. Donc ça, c'est de la complexité.
Et ils privilégient la location meublée également.
Meublée, saisonnière, parce qu'encore une fois, la fiscalité est plus favorable. Ouais. Donc tant que les pouvoirs publics n'inverseront pas la tendance, on pourra dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, ça ne changera rien. Parce qu'en fait, c'est toujours le porte-monnaie qui parle à la fin. Et si vous voulez avoir des investisseurs, eh bien pour investir, il faut que ça soit rentable. Et si on ne peut pas vous demander d'investir et puis de vous tondre comme un œuf de l'autre côté. Donc, et c'est au détriment des locataires, parce que tout ça fait qu'on a la queue dans nos agences, on n'arrive pas à offrir suffisamment de logements. Donc je pense que moi, ce qui m'a surpris très franchement la semaine dernière, c'est que le Parlement ne pousse pas plus. On peut comprendre la politique du gouvernement sur certains enjeux, mais en tout cas que le Parlement n'est pas suivi, moi ça m'inquiète, parce que ça veut dire qu'il y a une conjonction des deux, et personne prend la mesure. Les professionnels n'arrêtent pas d'alerter. Ça fait 2 ans qu'on alerte sur cette difficulté.
Alors, sur le taux d'effort, pour rabaisser le taux d'effort, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'avait proposé le député Cos. Et c'est dommage parce que ça aurait pu permettre à certains investisseurs justement d'investir. Il leur reste encore du reste à vivre important et c'était possible. Donc, c'est un effort collectif qui doit être pris. Donc, il y a des mesures prises par le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui semblent prometteuses. Mais encore une fois, ça tarde à venir.
Sur le fameux choc d'offres promis par Guillaume Kasbarian, qui l'a présenté il y a quelques jours, comment vous regardez ce projet de loi? Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle, ou est-ce que c'est assez ambitieux, ou ça manque clairement de d'ambition?
Ben, je pense qu'en fait, ils sont tiraillés entre vouloir faire plaisir à tout le monde. Alors, il y a une part d'ambition qu'on peut noter sur aider les maires à prendre des décisions, favoriser les simplifications administratives. Donc ça peut être un plus. Mais il y a, je pense, une part importante laissée au logement social. Alors, il faut du logement social, c'est très important. Mais tous les Français n'aspirent pas à vivre dans le logement social. Il faut les aider. Le logement social doit être une étape un moment de votre vie, et puis vous devez pouvoir construire autre chose, en tout cas financer autre chose, préparer votre retraite. Donc il y a une part laissée au logement social qui est très importante, mais rien pour le privé, pour le statut du bailleur privé. Donc je pense que c'est le... On a l'impression en fait de vouloir faire plaisir à tout le monde, vous faites plaisir à personne, ouais. Et il manque ce choc, ce fameux choc de l'offre dont on parle. Donc en parler, c'est bien. Maintenant, il faut agir et ça devient vraiment urgent parce que vous faisiez allusion au locatif et la pression locative ne fait qu'augmenter. En 2023, nous étions déjà inquiets chez Urpi et là, ça augmente au premier trimestre 2024. Donc, difficile.
Alors justement, pour en revenir sur le marché locatif, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet JO avec les propriétaires qui misent sur la location saisonnière liée à l'événement et qui, après les JO, vont peut-être... être plus enclin à louer à un prix plus abordable.
Alors si c'est ça, je vous dirais vivement que les JO s'arrêtent parce que ça nous évitera déjà entre tous les mouvements sociaux liés aux grèves avec les JO et puis le logement. Alors si les JO sont à ce point-là crispateurs, c'est quand même compliqué. Donc l'effet peut exister sur certaines villes ou peut-être Paris, mais quand vous êtes en province ou en région, tous les JO vont pas se tenir partout. Donc, je pense que c'est le JO, c'est le moyen commode de dire il y a un problème, c'est passager, vous verrez après ça va aller mieux. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a rien de fait fiscalement pour encourager l'investissement. Mmh. Et tant que vous favoriserez l'un au détriment de l'autre, alors il faut quand même aider le saisonnier, il faut aider on a un pays touristique, donc vous avez beaucoup de gens qui viennent sur les côtes ou à la montagne, donc ça fait partie aussi du paysage immobilier, mais mettre tout le poids du corps sur cette partie-là ne me semble pas judicieux. En fait, il faut équilibrer, il faut penser qu'on a un pays multiple, on a un pays où des gens louent en saisonnier, mais louent aussi à l'année, et c'est une politique beaucoup plus ambitieuse qu'il nous faut, et moi j'aime pas taper pour taper, ça sert à rien. Quand le nouveau ministre est arrivé, on m'a demandé tout de suite ce que j'en pensais, et il faut laisser le temps aux gens de s'installer, de produire des lois et de travailler, mais la force est de constater que chaque jour, accélérer. Chaque mois qui passe, ouais, c'est compliqué. Ouais. Donc,
merci
notre
beaucoup.
Marché immobilier rebougera,
merci
mais avec
beaucoup.
De l'aide de tous.
Merci Guillaume Martineau. Je rappelle que vous êtes le président de la coopérative Orpi. Dans un instant, le journal de 8h30. On va revenir sur la flamme olympique qui arrive ce matin à Marseille. C'est l'événement du jour et les sponsors comptent bien en profiter. À tout de suite. h 31 sur BFM Business, le journal avec Nathan Cocampo. Et Nathan, la flamme olympique est allumée en Grèce depuis le 26 avril et elle arrive, ça y est, enfin sur le territoire français.
Première étape, Marseille. 400 communes seront ensuite traversées avec 65 villes-étapes, animation, concerts, merchandising. Les sponsors officiels du relais comptent bien capitaliser sur l'événement. Zidane Azouzi.
Dans les reflets de la flamme olympique, deux groupes brilleront, BPCE et Coca-Cola. Ce sont les parrains officiels pour ces 68 jours de déambulation sur le territoire. Le géant bancaire a déjà mis en avant son 3-mâts Lebel M, qui amène la flamme à Marseille et s'appuiera ensuite sur son réseau de banques populaires et caisses d'épargne pour marquer les étapes de la flamme. Laurent Buffard, directeur de la communication BPCE.
On a évidemment des clients qui vont être porteurs de la flamme, qui ont candidaté pour cela. On a des collaborateurs qui souhaitent également s'investir, soit comme relayeurs, mais aussi pour venir animer les stands, animer la parade dans l'ensemble des villes-étapes. On attend plus de 20 millions de personnes au bord des routes. Donc, je ne sais pas si on mesure encore l'ampleur de ce qui va se passer.
Chez Coca-Cola, 6 concerts sont prévus avec des distributions de produits gratuits dans toutes les villes étapes. Sanofi, CMA-CGM, Sephora, La Poste, Airbnb qui profitent de l'événement pour mettre en avant sa présence dans 24 000 localités en France.
C'est une étape clé et l'épilogue d'un long feuilleton à Flamanville. EDF va enfin pouvoir mettre en marche son EPR.
L'autorité de sûreté nucléaire a donné hier son feu vert à la mise en service de ce réacteur de nouvelle génération. La fin d'un chantier qui a accumulé 12 ans de retard et des milliards d'euros de surcoût, Raphaël Couder.
Oui, c'est la fin d'une succession de presque 20 ans de déboires pour EDF. Décembre 2007, Nicolas Sarkozy pose la première pierre de ce chantier qui doit aboutir à la mise en service du plus puissant réacteur du parc français. Démarrage prévu initialement en 2012, sauf que dès le début de la construction, les difficultés s'enchaînent. Fissures dans le béton de la dalle, anomalies dans l'acier de la cuve. Le chantier est plus tard également retardé par la découverte de défauts sur certaines soudures. Des difficultés difficultés qui ont, au fil des années, fait exploser la facture. Au total, le coût de cette EPR dépasse désormais les 13 milliards d'euros selon EDF, soit plus de 4 fois le budget initial.
Et alors, il reste encore quelques étapes avant que le réacteur ne produise de l'électricité, Raphaël.
Oui, ce feu vert du gendarme du nucléaire va permettre à EDF de commencer à charger le combustible dans les prochains jours. Mais ce n'est effectivement que le début d'un long processus de mise en marche. EDF va devoir réaliser tout un tas de tests sur son réacteur. À chaque étape, en fait, de la montée en puissance, le démarrage de la production d'électricité et la connexion au réseau sont prévus pour cet été. La pleine puissance doit ensuite être atteinte à la fin de l'année 2024. Entre-temps, EDF devra solliciter encore 3 avis de l'autorité de sûreté nucléaire, à chaque fois, évidemment, pour vérifier que tout se passe bien. Et puis, à noter que Flamanville n'en a pas fini avec les travaux. Le réacteur devra être arrêté dès 2026 pour remplacer le couvercle de la cuve qui présente des anomalies de fabrication.
Merci Raphaël. Et en Grande-Bretagne, cette annonce d'investissement de 200 millions de livres pour produire un nouveau type de combustible nucléaire, indispensable donc pour la prochaine génération des réacteurs. Cet investissement servira à construire la première installation d'Europe capable de produire ce combustible. La mise en route est prévue pour 2031.
Alstom finit son année dans le rouge et creuse ses pertes.
Le constructeur de trains enregistre une perte nette de 309 millions d'euros sur son exercice annuel. Par ailleurs, le groupe, très endetté, confirme qu'il va bien procéder à une augmentation de capital d'un milliard d'euros.
Toyota annonce de son côté un bénéfice net record.
Proche des 30 milliards d'euros, le double de l'année précédente. Mais le constructeur japonais anticipe un recul de son bénéfice de près de 30% pour son prochain exercice. Toyota prévoyant de lourds investissements. BMW publie aussi ce matin un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre, proche des 3 milliards d'euros, mais en recul de 19% sur un an en raison de charges plus élevées.
Et chez Atos, on se prépare à vendre la filiale critique de systèmes nucléaires.
Worldgrid conçoit les systèmes de pilotage des centrales nucléaires en France, mais aussi en Chine, au Royaume-Uni. C'est 15% du parc mondial. Atos va donc se séparer de sa filiale, selon les informations des Échos, alors qu'il cherche actuellement son repreneur, Dassault Systèmes ou Scalian sont notamment évoqués comme candidats pour reprendre la filiale.
La hausse des salaires ralentit en France, mais reste au-dessus de l'inflation, et ce, pour toutes les catégories socioprofessionnelles.
C'est ce qui ressort des chiffres publiés par la DARES, et cette fois, les cadres sont eux aussi concernés. Jusqu'ici, ils perdaient du pouvoir d'achat. Caroline Morisseau.
Cette fois, plus d'exception. Même les cadres voient leur salaire progresser plus vite que l'inflation. Selon la DARES, leur salaire mensuel de base, c'est-à-dire leur rémunération brute hors prime et heures supplémentaires, a progressé de 2,8% sur un an, alors que dans le même temps, l'inflation a continué de ralentir pour atteindre 2,1%. Pour ces cadres, cela représente donc un gain de pouvoir d'achat de 0,7%. C'est une première. Jusqu'ici, les cadres étaient les grands perdants de l'hyperinflation. Leur salaire progressait moins vite que la hausse des prix. Contrairement aux ouvriers, qui sont ceux qui ont bénéficié des plus fortes augmentations compte tenu des pénuries de main-d'œuvre et de l'indexation du SMIC sur l'inflation. Pour le reste, les chiffres de la DARES montrent que les hausses de salaire ralentissent, toutes catégories de salariés confondues. Le salaire mensuel de base a progressé de 3,3% sur un an contre 3,9% le trimestre précédent. Une tendance qui devrait se poursuivre. Tous les experts sont unanimes. Cette année, les augmentations s'annoncent moins généreuses que l'an passé.
Et dans 10 minutes, on va revenir justement sur cette hausse des salaires, notamment pour les 4 bonnes ou mauvaises nouvelles. Ce sera le thème du débat d'Ose Daniel dans moins de 10 minutes.
Et puis l'ancienne plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies FTX, tombée en faillite fin 2022, devrait récupérer entre 14 et 16 milliards de dollars, la valeur totale des actifs de ses anciens clients. Le groupe précise dans un communiqué que la totalité des créanciers non gouvernementaux seront remboursés à 100% de la valeur de leur réclamation, validé par le tribunal des faillites.
8h37 sur BFM Business. Tout de suite, le monde qui bouge.
Good morning business, le monde qui bouge.
Avec Benaouda Abdedaïm. Benaouda, les États-Unis se font optimistes quant à un accord de trêve à Gaza. Les pourparlers se poursuivent aujourd'hui en Égypte. L'Arabie Saoudite, de son côté, en appelle à une intervention internationale. Comment la position saoudienne est-elle en train d'évoluer ?
Riyad semble encore placer ses espoirs dans la capacité des Américains à amener le gouvernement israélien à ne pas déclencher un assaut de grande envergure à Rafah, la ville de la bande de Gaza qui donne sur le désert égyptien du Sinaï. En attendant, les médias saoudiens font eux aussi le constat que l'armée israélienne a pris le contrôle du passage frontalier, vital pour un acheminement d'une aide humanitaire. Sans illusion sur la suite des événements, un quotidien de Jeddah écrit que cela a lieu malgré des semaines d'appel des alliés et des organisations internationales pour que Israël s'abstienne. Dans une mise en garde formelle, la diplomatie saoudienne réclame ainsi une intervention immédiate de la communauté internationale pour mettre fin, je cite toujours, au génocide perpétré par Israël contre les civils non armés. Dans son communiqué tranchant, le ministère des Affaires étrangères évoque une campagne sanglante systématique par les forces israéliennes d'occupation visant à déplacer les habitants vers l'inconnu compte tenu de l'absence de zones sûres après les destructions massives causées par la machine de guerre israélienne. Fin de citation. Dans les limites du cadre de ce positionnement solennel saoudien, les commentateurs se tournent alors de nouveau vers les partenaires américains et européens d'Israël. Un éditorialiste soutient que ce pays est de la sorte en train de tester les valeurs les plus fondamentales dont se prévaut l'Occident. L'Arabie saoudite ne précise pas ce qu'elle entend par intervention. Elle pourrait, sur le principe, faire partie des États arabes favorables à l'idée d'une force multinationale de maintien de la paix. Le chef de la diplomatie saoudienne a toutefois affirmé qu'il serait difficile de s'engager sans au préalable en avoir établi avec clarté les conditions. Pour l'heure, Riyad s'en tient donc au verbe.
Et alors, est-ce que les Saoudiens sont prêts à aller jusqu'à la rupture ?
Ce n'est pas une perspective du pouvoir royal. Et quiconque la met trop en avant s'expose à un sévère rappel à l'ordre, voire davantage. Il est fait état, sans aucune confirmation officielle, d'arrestations de citoyens ayant plaidé sur les réseaux sociaux une rupture nette avec Israël. Une publication spécialisée à Londres rapporte, par exemple, celle d'une personne qui a lancé un appel à boycotter les marques américaines. Un cadre supérieur du plan économique stratégique Vision 2030 aurait également été détenu pour avoir dépassé ses limites fixées. La justification générale avancée est que sous couvert de dénoncer Israël, il y a le risque de céder aux opérations d'influence menées par l'Iran pour faire dérailler les négociations de normalisation diplomatique et économique entre Riyad et Tel Aviv. L'État saoudien vise toujours par ce biais à obtenir de Washington des garanties militaires les plus étendues possibles. Téhéran le prend suffisamment en considération pour que mercredi dernier, le guide suprême de la révolution iranienne exprime en personne sa crainte de voir aboutir un tel rapprochement israélo-saoudien. Riyad a tenté dernièrement de pousser un plan B auprès des États-Unis en mettant Israël de côté. Ce serait un traité de défense bilatéral américano-saoudien autour duquel se disposerait des accords dans le nucléaire civil et les technologies de pointe. Une illusion d'après un ancien conseiller de haut rang du ministère américain de la Défense. Il souligne que la principale raison pour laquelle existe à Washington un consensus bipartisan, démocrate et républicain, sur un méga accord avec l'Arabie saoudite, à tort ou à raison, est qu'Israël soutiendrait la reconnaissance saoudienne. Enlever cela et tout s'effondre, écrit-il. À cet égard, le chef du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a eu samedi cette formule: vous ne pouvez pas démêler une pièce des autres. Le pouvoir royal saoudien le prend encore en compte dans son approche de la guerre de Gaza.
Merci beaucoup Ben Aouda Abdedaïm. Une chronique à retrouver évidemment en podcast sur notre application BFM Business. Dans un instant, on va parler IA et agriculture avec Abelio, une agritech qui a levé 4 millions d'euros l'année dernière et qui annonce ce matin un rachat. A tout de suite.
Good Morning Business. Le débat.
Le débat avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour messieurs, on va parler salaire ce matin puisque les dernières données du ministère du Travail révèlent que le salaire mensuel de base, c'est-à-dire hors prime, a progressé de 3,3% sur un an au premier trimestre contre 3,9% le trimestre précédent. Alors ça ralentit, mais l'inflation étant de 2,1% sur la période, les ménages devraient enfin regagner du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Nicolas Dose?
Avant de répondre à la question, je vais laisser Jean-Marc commencer parce qu'on ne va pas être d'accord. Quand même juste les éléments de contexte de ce qui nous est indiqué.
indiqué par la DARES parce que c'est un moment de bascule. On a une vague d'inflation qui débute en 2021. On va avoir 8 trimestres d'affilée pendant lesquels le salaire réel augmente moins vite. Donc le salaire réel est dans le rouge, si vous voulez. Et là, ça y est, la bascule s'est faite au début de cette année. Et maintenant, on a un salaire réel qui progresse. Donc la réalité, c'est que ça veut dire que si on tient... Le salaire réel, c'est quand on tient compte de l'inflation. En tenant compte de l'inflation, le pouvoir d'achat progresse. Souvent, le ressenti populaire, c'est l'inverse. On a toujours une vision de l'inflation très très supérieure à ce qu'elle est dans les chiffres de l'INSEE. Notre dernier baromètre Odoxa disait, l'opinion, où est-ce que vous mettez l'inflation? 13%. Quand en avril, on est à 2,2. Et puis, c'est maintenant valable pour absolument toutes les professions. C'est valable pour les ouvriers, où la progression d'ailleurs du salaire réel est la plus forte. C'est valable pour les employés. C'est valable pour les professions intermédiaires et c'est valable pour les cadres. Donc, le deuxième élément purement factuel, avant de laisser Jean-Marc répondre, sur bonne ou mauvaise nouvelle, moi j'ai un avis, c'est que, ça y est, l'inflation est absorbée et que la hausse des salaires, effectivement, ralentit. Ça, vous l'avez dit, inflation absorbée avec une hausse des salaires réelle positive, mais une hausse des salaires qui ralentit en 2024.
Jean-Marc, bonne ou mauvaise nouvelle, cette hausse
de salaire? Je pense que je vais faire une réponse un peu à la langue d'Ésope. C'est soit la meilleure nouvelle qui soit, soit la plus mauvaise qui soit sur leur...
Je suis déçu, Jean-Marc.
Sur la façon de regarder les choses.
Je suis déçu.
Mais j'ai plutôt tendance à considérer que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que, fondamentalement, l'évolution des salaires doit être liée à l'évolution de la productivité. Quand vous regardez, l'INSEE a sorti en tout début d'année une étude assez longue sur l'évolution des salaires depuis 1996. Et il montre bien que l'évolution moyenne du pouvoir d'achat était de 0,5% par an, avec chaque fois qu'il y a un à-coup par rapport à la productivité, ça se traduit par un gonflement au bout d'un moment du chômage. Et donc, le véritable enjeu, c'est est-ce que la productivité est au rendez-vous? Donc, c'est une bonne nouvelle si, derrière ce chiffre, il y a le fait que, malgré les angoisses, malgré les questions que l'on s'est posées sur l'évolution de la productivité, en fait, ce signe montre que la productivité est en train de repartir à la hausse. C'est une très mauvaise nouvelle, ce que je crains, si la productivité n'est pas au rendez-vous. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va se payer. D'ailleurs, je le rappelle régulièrement ici, tout le monde nous dit le grand danger, c'est la boucle prix-salaire.
La fameuse spirale.
La spirale prix-salaire. Si les salaires se mettent à augmenter plus vite que l'inflation, ça veut dire qu'on est en train d'enclencher cette boucle prix-salaire. Et donc...
Il n'y a pas d'inflation, Jean-Pierre.
Ah non, mais il n'y a pas d'inflation. Je pense qu'il n'y a pas d'inflation, ça c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a pu, justement, par rapport à la boucle prix-salaire, augmenter? C'est que, indépendamment de l'évolution de la productivité, la hausse des prix, qui n'était pas une inflation, était liée à des mécanismes d'importation. Le prix des importations avait augmenté, et donc le ralentissement de cette hausse des prix des importations a donné du mou aux entreprises. C'est-à-dire, les entreprises ont gagné de l'argent sur les importations. Ceux qui ont payé cette hausse des salaires, ce sont nos partenaires commerciaux. La question qui se pose, c'est combien de temps nos partenaires commerciaux vont être au rendez-vous? Je pense que ça va pas durer très longtemps, que maintenant cette évolution du prix des importations est derrière nous. Et donc, s'il n'y a pas de productivité, ce que je crains, c'est une très mauvaise nouvelle.
Nicolas Dose, bonne ou mauvaise nouvelle?
Jean-Marc fait de l'économie, il a 100% raison. Normalement, ce qui doit tirer les salaires à l'eau, c'est la productivité.
Ça, c'est la théorie.
Non, mais c'est la vraie, surtout. Ouais. Pas que la théorie, c'est juste
c'est la vérité, le moteur
de la base.
Et la productivité, plus qu'ailleurs en France, elle est en déclinant depuis 2019. Alors, moi, je vais faire de la presse et je vais être 100% pas d'accord avec ce que dit Jean-Marc. Moi, je veux dire que c'est quand même une bonne nouvelle que l'ensemble des salariés retrouvent compensés de l'inflation, alors que jusqu'ici, il n'y avait que les salariés payés un SMIC qui était compensé de l'inflation. Je veux dire que c'est une bonne nouvelle parce que justement, la hausse des salaires est là, la hausse des salaires réels est positive, mais la hausse des salaires ralentit, ce qui veut dire que tous ceux qui ont redouté la fameuse boucle prix-salaire, l'effet de second tour, a priori vont être déçus. Donc je veux dire que c'est une bonne nouvelle parce que la décélération de l'inflation se confirme. Donc je veux dire que c'est une bonne nouvelle parce que plus rien ne s'oppose à l'idée que la BCE devrait en théorie relâcher sa politique monétaire au début du mois de juin. Et je veux dire que c'est une bonne nouvelle même si il y a un gros bémol, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a eu des chiffres de consommation qui ont alimenté ce petit rebond de croissance supérieur aux prévisions au premier trimestre. Donc s'il y a de la consommation, Bercy peut être soulagé à l'idée que peut-être que son 1% de croissance est tenable. Après, si je fais un peu moins de la presse et un peu de l'économie, il est certain que le pouvoir d'achat aujourd'hui est quelque chose qui alimente le déficit commercial du pays. Et on sait bien qu'on est un pays qui peut-être consomme trop et ne produit pas assez.
Alors là, pas peut-être.
C'est une certitude.
C'est un pays qui ne travaille pas assez, qui consomme trop.
Jean-Marc fait de l'économie, moi je fais de la presse. Bon. Mais enfin voilà, c'est la productivité la clé du sujet.
Exactement.
Voilà, vous avez vu, c'est un mot qu'on entend que sur BFM Business et nulle part ailleurs.
Bah, c'est BFM
mais
BFM
nulle
Business.
Part ailleurs. Tous
BFM
les débats
Business.
Sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, le mot productivité n'est dans aucun débat, et alors que c'est la clé du sujet.
C'est pour ça qu'il faut nous regarder.
Vous voyez, ça nous réunit.
Évidemment.
À la fin.
Évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on va voir ce que l'IA peut apporter à l'agriculture.
Good Morning Business. Business Today.
Et ce matin, on reçoit une agritech qui a levé 4 millions d'euros l'année dernière. Et ce matin, elle nous annonce un rachat. Bonjour Grégoire Dupré.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Abelio. J'accueille aussi Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Notre spécialiste IA. Alors Abelio, c'est une entreprise toulousaine. Vous proposez une solution aux agriculteurs à base d'IA pour les aider en fait à surveiller leur culture et à améliorer leur rendement. Votre rôle, c'est de dire en fait, cette parcelle a besoin de tant d'engrais et pas plus grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne concrètement?
Alors, c'est assez simple l'objectif pour nous. C'est vraiment d'utiliser et de mettre l'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Alors, vous avez parlé d'un cas d'usage qui est effectivement l'optimisation des engrais, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, le premier générateur de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Donc, c'est la première chose sur laquelle on s'est attelé il y a maintenant quelques années. Comment ça fonctionne? On vient chercher de la donnée. Alors, dans le cas des engrais, c'est du satellite, mais on a aussi d'autres verticales où on va utiliser de la donnée météorologique ou des drones, avec une analyse de la data qui est faite par des réseaux de neurones. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais voilà, de l'intelligence artificielle comme on peut la connaître de manière classique. Et cette intelligence artificielle-là va nous permettre de transformer cette donnée brute en donnée traitée. Et cette donnée traitée, on va l'interpréter agronomiquement pour en faire derrière un conseil pour l'agriculteur.
Anthony ?
Avec quel niveau de précision ? C'est-à-dire que j'imagine que l'interface pour l'agriculteur, c'est une tablette ou un smartphone avec une application. On va lui dire, voilà votre parcelle, elle est cartographiée. Mais c'est quoi ? C'est au mètre près, au centimètre près, où on vous dit, là, il faut mettre telle quantité d'engrais, telle quantité d'eau ?
Alors, c'est effectivement l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, quand on utilise du satellite, c'est l'ordre du mètre. En l'occurrence, de notre côté, nous, on utilise deux types de constellations. Pour entrer un tout petit peu dans le détail, on utilise des constellations dites publiques qui sont pilotées par l'Agence spatiale européenne. C'est les constellations Sentinel, qui là ont une précision de 10 mètres par 10 mètres. Et on utilise une constellation américaine privée qui s'appelle Planet et qui, elle, fait 3 mètres par 3 mètres en termes de précision. Quand on utilise des drones, là, on est vraiment au millimètre près.
Donc, extrêmement précis. Jusqu'à présent, vous avez réussi à diminuer de combien l'usage des pesticides de vos clients et aussi leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous avez réussi à quantifier cela?
Alors, c'est extrêmement variable selon les situations. Forcément, plus on a une parcelle hétérogène, plus les besoins vont être forcément hétérogènes. Et donc, plus le gain, finalement, qu'on va avoir en optimisant les différents intrants au sein d'une parcelle, les intrants qui désignent à la fois les produits phytopharmaceutiques, l'engrais et l'eau vont être intéressants à optimiser. Quand on parle effectivement de pesticides, je vais préciser, on va parler d'herbicides puisque c'est un de nos services où on détecte des mauvaises herbes par drone pour ensuite ne pulvériser que aux endroits où c'est nécessaire. Aujourd'hui, les chiffres ils sont impressionnants. On arrive à des réductions de 84,8%.
C'est colossal. Donc j'imagine que vous voyez le plan éco-phyto du gouvernement d'un bon oeil. C'est du pain béni pour vous?
C'est du pain béni, effectivement, mais l'objectif, c'est quand même d'accompagner les agriculteurs. J'ai toujours une volonté en tête à chaque fois que nous développons un nouveau service pour nos agriculteurs. C'est d'abord qu'il apporte, avant de penser au réglementaire, qu'il apporte d'abord un aspect financièrement positif aux agriculteurs.
Ils vont quand même être obligés d'aller vers ce genre d'outils de plus en plus, quoi.
Complètement.
Ça va être un avantage compétitif pour eux par rapport à ceux qui ne feront pas appel à ce genre de service parce que forcément, avec la pression réglementaire, ils vont se retrouver coincés, quoi.
C'est ça. Le mot de l'agriculture, c'est sa compétitivité. On en a beaucoup parlé ces derniers mois avec les manifestations qu'il y a eu par rapport aux différents pays à la fois européens ou presque européens et autres pays, notamment de l'Amérique du Sud. Donc l'objectif, c'est de pouvoir être plus performant grâce à des outils d'aide à la décision et en phase avec la réglementation.
Et alors, vous nous annoncez ce matin une nouvelle étape dans votre croissance, puisque vous rachetez la start-up Scanopy, avec elle, vous vous lancez sur le nouveau marché, celui de la viticulture. Qu'est-ce que ça va changer? C'est la même chose? Les outils sont les mêmes ou ça va radicalement changer?
Notre expert pourra le dire, ce qui est le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et cette donnée, si on ne l'a pas, on ne fait rien. Pour l'avoir dans l'agriculture, on a un gros problème. C'est qu'on a une répétition par an. Contrairement à d'autres domaines du numérique, où on peut avoir de la répétition de manière régulière, de l'acquisition finalement quasi constante, dans l'agriculture, c'est une acquisition égale une année. Donc le fait de racheter cette société, de reprendre cette société, de les intégrer, ça nous permet de récupérer plusieurs années de données et de rendre nos solutions directement fonctionnelles en viticulture et en particulier sur différents sujets.
Alors il y a un autre nerf de la guerre dans l'IA, je ne sais pas, mais dans l'agriculture, c'est celle des coûts aussi, parce que pour le coup les solutions sont intéressantes et on voit que la promesse est vraiment extrêmement intéressante pour les agriculteurs, mais derrière, en termes de retour sur investissement, ça leur coûte combien et en combien d'années ils peuvent rentabiliser ce genre d'investissement?
Ben, clairement, je suis en phase à 100% avec vous. La clé est de succès d'une start-up agritech aujourd'hui, c'est de démontrer sa rentabilité pour l'agriculteur, pour l'utilisateur final. Donc je parlais de plusieurs verticales, on va faire un exemple assez simple sur la partie herbicide. Je parlais tout à l'heure de 84,8% de réduction d'herbicides. Un herbicide aujourd'hui, en tout cas sur les cultures pour lesquelles on l'utilise, c'est 50 euros l'hectare. 50 euros l'hectare, si vous économisez 80% pour faire un calcul rapide, on économise 40 euros. 40 euros pour une prestation qui va coûter moins de 20 euros, c'est rentable pour l'agriculteur et c'est directement quantifiable.
Et puisqu'on parle de coûts, vous l'avez racheté combien ce Canopy?
Ah, malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas annoncer. J'aurais bien aimé, mais non, mais je ne pourrais pas.
Mais avec ce rachat, vous allez poursuivre vos implantations à l'international, notamment, j'ai lu, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Pologne, au Maroc. Là, c'est des nouveaux marchés. Est-ce que c'est des marchés qui, là encore, changent radicalement? Il faut s'adapter à chaque fois, à chaque exploitation, ou c'est à peu près la même chose?
C'est là où, justement, encore une fois, l'intelligence artificielle est magique, entre guillemets. C'est quand l'intelligence artificielle nous permet d'avoir une certaine flexibilité, finalement, dans l'interprétation agronomique, là où des modèles mathématiques sont généralement un peu trop cartésiens. Et donc cette flexibilité-là, elle nous permet de rendre assez facilement opérables nos modèles sur différents pays, dans différents terroirs, avec différentes conditions pédoclimatiques.
Voilà, c'est la fin de cette matinale de l'économie. Merci d'avoir été avec nous. Ça continue évidemment sur BFM Business. Dans un instant, le journal avec Léo Dumas et les experts avec Nicolas Dose.